Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Mon Paris FM.
Victoire obligatoire, quelle que soit la manière, selon le sélectionneur.
On peut disserter, il n'y a qu'une chose.
Son équipe n'a pas le droit à l'erreur.
C'est le résultat.
Encore faudrait-il pour cela qu'il commence à jouer au football, ce qui n'a pas vraiment été le cas.
Vous suivez Au bout du foot avec Malik Eudy et toute sa team. Chaque lundi, 20h30, 22h sur monparisfm.com.
Bonsoir à toutes et à tous, 20h34 minutes sur Mon Paris FM, très très heureux d'être en votre compagnie en ce lundi soir au bout du foot, chaque lundi soir 20h30, 22h sur Mon Paris FM, réalisation Jason Lindor. Avec moi ce soir, Darius, salut Darius.
Salut Malik, comment ça va?
Bien, ça va et toi-même? Ça fait longtemps Darius?
Ah, ça fait très longtemps
et la
ça
première
va pas
ligne.
Trop. Hein. Ouais, ça ouais, va pas je trop, sais, là je passe un mauvais week-end.
Je sais. On va en parler justement avec Arsenal, défait encore ce week-end. Ça commence à être très très juste, hein.
Ouais.
Bon, on en reparlera.
On en reparlera. Salut Abou.
Salut Malik.
Ça va bien la forme
ça
aussi?
Ça va, ça se passe.
Alors l'Olympique de Marseille, ça se passe comment Abou?
Bah ça a l'air de...
Parce que t'as fait tes aveux sur cette antenne.
Qui moi?
Oui, c'est ce qu'elle a m'a dit.
Ça a l'air de se passer aussi bien qu'Arsenal.
Bah, c'est bon alors.
Quand même pas.
Et puis on a notre nouveau venu. Salut Lucas.
Salut Malik, ça va?
La forme, bien.
Super forme.
Alors, avec toi, Lucas, on a un journal d'Au bout du foot chaque lundi soir désormais.
Exactement, 7 minutes avec moi.
7 minutes, on va parler essentiellement foot, encore une fois.
Toujours.
Ça va être essentiellement des actualités qui ne sont pas forcément dans le sommaire, c'est bien ça?
Exactement.
Ça va arriver dans quelques instants. Et puis, on a notre ami Eladj qui arrive dans quelques instants, qui est dans le studio de Mon Paris FM. On t'attend, Eladj, on t'attend pour te dire bonjour quand même. Voilà,
il
prends ton temps. Voilà, tout de vert vêtu, bien sapé, ça joue les beaux gosses et tout ça. Salut Eladj, ça va?
Salut Malik, ça va et toi?
Bien la forme?
Ouais, super et toi?
Bon week-end de foot aussi?
Bon week-end de foot.
Un peu déçu, non?
Non, c'est le football, hein, ça va. Et bah, toi, ça va? Tu t'es remis du double coup de marteau de la semaine dernière?
Quel coup de marteau? Je ne sais pas de quoi tu parles.
Qui t'a empêché de venir nous présenter l'émission?
Non, j'étais en province, c'est pour ça que je suis pas venu.
Okay. Oui, ça s'est bien passé en province.
Oui, ça s'est bien passé.
Ah bah, ça va,
c'est
passé.
C'était pour les activités professionnelles, entre autres. En tout cas, très heureux d'être avec vous et puis vous signaler que notre ami Chekenza, justement, arrive dans quelques instants. Chekenza, qu'on sent un peu moins bouillant quand même. Hein. Ses dernières interventions n'ont pas été aussi chaudes. Il est assez tempéré, le garçon, de plus en plus. Là.
Il fallait bien qu'il se calme, t'as vu de là où il est parti quand même. il était
trop chaud. Et puis, dans quelques instants, on va avoir notre ami du quotidien du sport.fr, l'ami Stéphane Desenclos, également Alex qui va arriver depuis Barcelone. Hein. Il va nous donner toutes les dernières nouvelles fraîches, justement, du Paris Saint-Germain, notamment, qui est déjà sur place. Je l'ai eu il y a quelques secondes déjà. Je crois que les Parisiens sont déjà à l'entraînement pour la reconnaissance du terrain, entre autres. Tout de suite et maintenant, le sommaire.
Au sommaire d'Au bout du foot de ce 15 avril 2024, 30 secondes chrono. Les consultants livrent leurs faits marquants foot en 30 secondes. Le journal du foot par Lucas. Un retour sur tout ce que vous auriez pu manquer. Retour sur la folle semaine de Ligue des Champions. Analyse approfondie des quarts de finale avec un focus sur la rencontre Paris Saint-Germain-FC Barcelone. Quel pronostic pour les matchs retour? Retour également sur la semaine du LOSC et de l'Olympique de Marseille en Coupe d'Europe. Discussion sur les performances de l'OM et du LOSC, leurs regrets éventuels et leurs perspectives. La question au bout du foot, une réflexion sur le manque de réussite des coachs français à l'étranger. Retour également sur le week-end de Ligue 1, mise en lumière des résultats marquants de la dernière journée avec la remontada lyonnaise. Au bout du foot, l'essentiel du foot en 90 minutes. Bienvenue.
Bienvenue en effet à 20h37 minutes sur la pendule de Mon Paris FM. 30 secondes chrono. Chaque consultant donne son fait marquant en foot en 30 secondes. Hors sujet du sommaire, bien entendu. C'est parti. On va commencer avec Abou.
Alors moi, mon 30 secondes chrono, c'est pour parler du Paris FC. Le Paris FC qui reste sur 10 matchs sans défaite en Ligue 2. Paris FC qui est actuellement 4e de Ligue 2 à 5 points de Angers qui est 3e de Ligue 2. Voilà, une très belle équipe du Paris FC. Le Paris FC qui, on le rappelle, hein, ces dernières années a toujours manqué la montée de peu. Bah, cette année, en tout cas, ça a l'air de mieux marcher avec Stéphane Gilly qui fait un travail vraiment formidable. J'ai eu la chance de le rencontrer au mois de janvier. Je suis parti à une séance d'entraînement du Paris FC et ses joueurs le disaient, c'est vraiment un coach formidable qui pousse cette équipe. Donc, je suis content pour eux.
Et ce sera donc la montée en Ligue 1, c'est bien ça?
Bah, on leur souhaite. Hein. Ouais, on leur souhaite.
Peut-être qu'ils vont occuper le Parc des Princes, hein, sachant que le Paris Saint-Germain va être dégagé du Parc des Princes. Bah, et là, ça t'évoque quoi? Tu iras jusqu'à Poissy, hein?
C'est pas encore fait.
Ça va se faire.
Ça me dérange pas, je suis véhiculé, ça me dérange pas. Moi, je peux
aller Poissy. Jusqu'à Poissy.
Ça me dérange pas. Bon, écoute, pas du tout.
Si tu le dis. Darius, réaction, Paris FC.
Bon, écoute, moi, c'est un club que je suis allé voir là quelques fois cette saison. Quand je suis allé les voir, ils étaient absolument mais endormissants. Et là, je suis content que voilà, ils commencent à remonter. C'est un club de Paris, donc on se doit un peu de les supporter, de donner la force. Et on rappelle quand même que c'est des places gratuites chez eux et que ça se...
À Charletti.
Ouais, à Charletti.
C'est pas terrible non plus, hein, le Charletti.
C'est pas terrible, c'est peut-être pour ça que c'est gratuit, mais c'est quand même, c'est quand même une belle initiative et on est obligé de l'applaudir.
N'est-ce pas, Lucas, réaction sur le Paris FC?
Il y a toujours quand même cette attente d'avoir un derby parisien en Ligue 1. On est quand même un des seuls grands pays européens à ne pas l'avoir. Donc j'espère avoir le Paris FC, le Red Star ou un autre club prochainement en Ligue 1 pour voir des vrais derbies.
Le Red Star aussi qui est en train de certainement monter en Ligue 2 hein, avec Habib Bey notamment.
C'est déjà fait pratiquement.
Comme coach, oui, c'est, ouais. Je crois qu'ils sont à 10 points, non, c'est ça? Voire un peu plus d'ailleurs. Elle a ta réaction par rapport au Paris FC?
Bah moi, le Paris FC, c'est toujours la même chose. Hein. Chaque année, c'est la même chose. C'est les mêmes attentes. Y a des fois, même, ils étaient encore plus proches du podium. Et à la fin de saison, c'est ric-rac, comme d'habitude. Ils ne se qualifient jamais pour la Ligue 1. Du coup, moi, ça ne m'étonnerait pas encore que cette saison, ils ne se qualifient pas pour la Ligue 1. Encore.
Et imagine, imaginons que le Paris FC monte en Ligue 1. Tu supportes toujours le Paris Saint-Germain ou...
Et toi Malik, tu vas supporter qui?
Moi j'ai pas d'équipe, moi je suis un amateur de foot.
Non mais un amateur de foot comme bon amateur de foot, t'es obligé de supporter une équipe.
Non, moi je supporte pas me dire moi je supporte l'équipe nationale de France et l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, ça tu le sais.
Oui, ça je le sais.
Mais voilà, donc
je sais aussi que tu supportes Marseille, mais que tu ne veux
c'est
pas.
C'est qui
dire.
A dit ça?
Mais non, je,
non
je,
mais
je
non,
sais
c'est n'importe quoi ça.
Oui, et
non, c'est Abou, il a fait ses aveux ici même sur cette antenne.
Mais c'est une rumeur ça aussi. Moi j'ai pas fait.
Non, moi je l'ai entendu, on m'a dit écoute un podcast, je l'ai réécouté effectivement.
Mais non, t'as mal compris. Moi en gros ce que je disais, que je suis un supporter de la France et qui supporte la France supporte tous les clubs français dont l'Olympique de Marseille qui en fait partie, Malik.
Mais pourquoi quand on était à Marseille
donc
t'as mis le maillot?
Tu supportes le PSG aussi. Ah, c'est parti jusqu'à là. Ok,
ça 30 secondes chrono pour toi mon cher Lucas.
C'est parti. Alors moi j'aimerais vous parler de la victoire 6-0 du PSV Eindhoven en Eredivisie. Ils ont gagné contre le Vitesse Arnhem et là en fait si je vous dis ça c'est parce que ça sent le titre pour le PSV. C'est un peu une belle revanche pour Peter Bosz qu'on a un peu connu dans l'Hexagone avec Lyon. Ça a été un assez gros échec, il a été assez remis en question sur ses qualités de coaching. Et là on voit qu'avec le au PSV, avec une équipe qui le suit, qui adhère à son niveau de jeu, ça joue bien, ça marque beaucoup de buts et ça gagne. Là ils ont 9 points d'avance à 4 journées de la fin. Donc encore une victoire et ils seront champions.
Ah ben cette année 2024, on a l'impression qu'on a des champions inédits un peu partout. Hein. On va commencer même avec la Cannes, la Côte d'Ivoire qui revient de nulle part, le Bayer Leverkusen du côté de l'Allemagne et le PSV Eindhoven, entre autres, au niveau des Pays-Bas. Il n'y a qu'en France où le Paris Saint-Germain déroule où ça ne change pas. Quoi. Ta réaction sur le PSV Eindhoven, Eladj?
Pas de réaction spécifique.
Non, mais je sais que tu suis beaucoup le championnat
oui,
des Pays-Bas. Justement.
Moi, j'ai vu que ils enchaînaient. Hein, ils étaient sur un enchaînement de. En tout cas, ils n'avaient pas de défaite pendant un certain nombre de matchs. Je ne me rappelle plus combien exactement, mais j'avais suivi ce truc-là. Après, je suis de près ou de loin un peu. De Jong, surtout, qui revit au PSV et qui marque énormément de buts. Et voilà, c'est tout.
Darius?
Pas forcément de réaction non plus. C'est vrai que ça fait toujours plaisir un peu de voir du changement en Europe, des vainqueurs. C'est une belle équipe, c'est un très bon coach. Et on verra s'il reste une année de plus ou s'il va prendre les rênes d'un plus grand club en Europe.
Lucas, toi qui fais référence au PSV Eindhoven, est-ce que tu suis régulièrement le championnat des Pays-Bas?
J'aime bien le championnat des Pays-Bas parce qu'il y a toujours...
C'est à quel niveau, véritablement?
En fait, comme... ce genre de championnat.
La Ligue 1 au-dessus ?
En fait, on ne peut pas vraiment dire ça. Le problème, c'est qu'il y a des équipes qui jouent très régulièrement l'Europe et qui la jouent tout le temps. Que ce soit le PSV, l'Ajax, le Feyenoord et les autres équipes qui sont vraiment beaucoup plus faibles. Donc les têtes de série, les équipes qui jouent l'Europe, ont largement leur place en Ligue 1. J'aurais même le haut de tableau, mais les équipes basses, c'est très très faible. C'est un peu comme je parlais du Portugal qui fonctionne comme ça aussi, avec des équipes de tête très très fortes, mm-hmm. mais le reste qui a un peu plus de mal à suivre le rythme. Mais ce qui est intéressant avec l'Eredivisie, c'est qu'il y a toujours des attaquants de fous qui sortent de là-bas. On a eu Van Nistelrooy, Luis Suarez, etc.
Ils sont vite dépouillés aussi, un peu comme en Ligue 1.
Vite dépouillés. On l'a vu avec l'Ajax 2019, hein, mm-hmm. qui n'a pas réussi à suivre le rythme une fois qu'ils ont perdu De Ligt, De Jong, etc. Mais là, on a encore des belles pépites. On a Johan Bakayoko, le Belge, qui fait des ravages sur son aile droite. Et on a Malik Tillman, un jeune américain qui a été formé au Bayern. Qui
Lance le connaît très bien.
Qui fait une grosse saison. Ouais. Donc voilà, très enthousiasmant à voir cette équipe du PSV.
Ben, à suivre hein, pour les prochaines saisons, pourquoi pas. 30 secondes chrono pour El Hadj.
Bah moi, mon fait marquant, c'est Xabi Alonso avec le Bayer Leverkusen. Hein. Voilà, ils avaient un nombre de points entre eux et le Bayern de Munich et ils ont fait que le creuser. Et contrairement en tout cas à ce que je pensais au début, je me suis dit peut-être que ça va faire comme Arsenal, mais non. Ça a été, ils ont tenu la route et ils ont montré que le Bayern y gagne ou qu'ils perdent. Eux, ils enchaînaient et ils continuent à gagner. Et ils sont champions beaucoup plus tôt et c'est largement mérité. Et on attend Xabi Alonso à la Casablanca dans un an.
Et là, il y a évoqué le champion mérité. C'est plutôt le Bayern qui a failli ou c'est plutôt le Bayer Leverkusen, justement, qui a tout simplement explosé les compteurs?
C'est un très beau mélange des deux. Hein. Je pense que Leverkusen, ils ont fait la saison, une saison pratiquement parfaite. C'est zéro défaite, tout simplement.
C'est parfait.
C'est littéralement parfait.
C'est même pas nul.
Mais si c'est parfait, c'est aussi parce que y avait personne en face. Et je pense que le Bayern aurait pu montrer quelque chose de plus grand. Et à chaque confrontation, ils se sont fait avoir. Et le Bayern, on ne peut pas dire que c'était un gros Bayern. Ils lâchent des points facilement. Ils n'ont pas forcément des joueurs qui ressortent du lot. C'est une saison, ils passent un peu au travers. Thomas Tuchel.
Saison à vite oubliée.
Je pense, une saison à vite oubliée. Je pense que Tuchel, il peut déjà faire ses bagages. Il sera pas
mais c'est déjà fait. Hein. Il est annoncé partant déjà.
C'est tout à fait logique. Bravo au Bayern. Bravo au Bayern Leverkusen. Mais on pointe du doigt un peu le Bayern.
Abou, réaction sur le Bayer Leverkusen?
Moi, je ne sais pas si tu t'en rappelles, Malik, j'avais fait une chronique ici sur le Bayer Leverkusen de Xabi Alonso dans l'émission Au bout du foot.
Oui.
Et à cette époque-là, on en parlait déjà. Est-ce qu'ils vont réussir à tenir à la cadence? Et moi, je trouve vraiment que. Enfin, je ne trouve pas que ce soit une faillite du Bayern Munich, mais vraiment je trouve que c'est vraiment une victoire du Bayer Leverkusen. Xabi Alonso, il a su imposer son jeu, un jeu magnifique. C'est vraiment exceptionnel.
Ça joue bien,
Ça joue vraiment extrêmement bien et ça ne joue pas bien qu'en Bundesliga. On pourrait dire qu'en Bundesliga, il n'y a pas d'adversité, mais on ne peut pas dire qu'en Bundesliga, il n'y a pas d'adversité, qu'en Coupe d'Allemagne, il n'y a pas d'adversité. Ligue Europa où ils sont
encore en finale de la coupe en plus. Hein.
C'est ça, finale de coupe où ils joueront contre une D2, donc il y a de fortes chances qu'ils la remportent.
Et toujours engagés en Europa League aussi.
Et en Europa League où ils ont remporté leur match aller 2-0. Donc c'est une équipe qui peut aller au bout de ces trois compétitions et réaliser le triplé, donc c'est tout simplement formidable. Et c'est la victoire du football, la victoire du beau jeu. Donc pour ça, on doit applaudir Xabi Alonso. On se posait la question de savoir si le football de notre enfance, il n'était pas mort il y a quelques semaines ici même sur ce plateau. Moi je pense qu'il renaît à travers Xabi Alonso et c'est une très très bonne nouvelle.
Mais j'ai bien peur qu'il se fasse dépouiller aussi. C'est possible. Moi, je regarde un peu les gazettes là, il y a pas mal de joueurs qui sont annoncés partant déjà. Hein.
C'est possible, mais l'Allemagne après recrute derrière. Ils vont pas juste se faire dépouiller et rester comme ça. Ils vont peut-être se faire dépouiller, mais ils vont récupérer aussi de bons joueurs. Moi, je pense qui vont faire évoluer aussi. Du coup, moi, je pense il y a un an, on connaissait pas Grimaldo, Frimpong, etc. On les connaissait pas.
Wirtz.
Il les a sortis. Oui, même Florian Wirtz, lui, on le connaissait déjà.
Ah, mais il est lourd.
On le connaissait déjà. Il devait même aller à City.
On en parle pas beaucoup, mais oula.
Mais il devait aller à City même, mais ça a été à cause il s'était fait les ligaments. Du coup, c'est ce qui a été avorté. Mais sinon, on le connaissait déjà, Florian Wirtz, mais à part lui, Boniface, on a vu des gens, même Patrick Schick qui revient là, qui franchement, on a vu des gens, tout le monde, vraiment tout
en plus,
le groupe concerné.
En plus, c'est une jeune équipe. Hein.
Oui, c'est une très jeune équipe.
Je ne connais pas la moyenne d'âge, mais...
Ils ont perdu Moussa Diaby, ils ont réussi à le remplacer.
Ouais, bien sûr.
On était inquiet du départ de Moussa Diaby l'an dernier, qu'ils ont parfaitement remplacé. Je trouve que c'est un club qui travaille bien et avec un recrutement intelligent et un coach en plus qui vous annonce qu'il ne partira pas, malgré le fait qu'il ait été courtisé par le Bayern Munich. Lui, il a la tête d'un projet, il veut rester dans ce projet-là. Donc, je trouve que c'est logique ce qui se passe.
Le Bayern, ils veulent Zidane là aux dernières nouvelles.
Il parle pas allemand. Zizou, il part que là où il parle la langue.
Darius pour le 30 secondes chrono.
Vous me connaissez, moi je suis obligé de parler de Première Ligue. Et là, c'était pas n'importe quel week-end, ce week-end en Première Ligue. On a vu la défaite de Arsenal et Liverpool pour le plus grand bonheur de City. Ils paraissent un peu inévitables, City. Et c'est vrai que ça me fait un peu mal au cœur. La défaite de Arsenal, elle était absolument pathétique. Ils ont montré de belles choses et pourtant ils n'ont pas réussi à, à finir. Et j'ai l'impression que c'est le même Arsenal que tous les deux années. Et Liverpool, je sais pas ce qui leur arrive là en ce moment. Ils se comportaient comme des champions toute la saison. Et là, ils se font battre à domicile par Crystal Palace. C'est vraiment la honte.
Je sais pas si vous avez eu la même impression que moi, mais j'ai l'impression que peut-être à un degré moindre City, mais j'ai l'impression que ce soit Arsenal ou même Liverpool hier, je les ai trouvés fatigués.
Ouais.
Ouais, moi, tu me l'avais dit, Malik, qu'on avait échangé un peu là-dessus. Et franchement, moi, je me suis dit, oui, Arsenal, ils peuvent faire un match nul, mais ça m'étonnerait en tout cas qu'ils perdent vraiment. Après la défaite de Liverpool, pour moi, t'es averti. Tu vois Liverpool perdre, là, t'as normalement deux fois plus de boost et tu te dis, on est obligé de gagner. On est obligé, en sachant ce qu'ils ont fait l'année dernière. Là, ils n'avaient absolument pas le droit à l'erreur, mais c'est Arsenal qu'on connaît. C'est toujours la même chose, c'est toujours un espoir. Et voilà,
mais il y a un truc que t'as oublié, c'est qu'en face, c'était Unai Emery. Hein, il connaît bien cette équipe d'Arsenal. Hein.
Non, je dis pas le contraire. Oui,
c'est pas assez. Déjà qu'au match aller, ils gagnent 1-0 à Villa Park. Là, au match retour, comme elle a déjà dit, t'as pas le droit à l'erreur. À ce stade-là de la saison, après la défaite de Liverpool, alors que t'as perdu le match aller, t'as pas le droit à l'erreur. Et là, l'erreur, elle a été plus que faite. On a des occasions, mais exceptionnelles, là, de la part d'Arsenal. Un contre un, Trossard, là, face à Martinez, où il est à littéralement 3 mètres des cages, il doit la mettre au fond. Il doit la mettre au fond, et c'est l'éternel Arsenal qui n'arrive pas à retrouver la voie des trophées.
Mais si, d'ailleurs, Lucas, tu penses que City, c'est bon, là, c'est ouvert?
J'en ai bien peur.
T'as peur, regarde.
j'aime pas du tout City, donc ouais, j'ai bien peur qu'ils finissent par gagner. Y a quand même une espèce de force naturelle qui se démarque, qui émane de cette équipe. Liverpool, moi, je trouve que Liverpool a été toujours poussif dans le jeu. Il n'y a aucun moment où j'ai vraiment vu le Liverpool les dernières années, cette année. Mais effectivement, ils étaient là, ils étaient en embuscade. Et la défaite, les deux défaites des principaux prétendants, plus la victoire de City, j'ai l'impression qu'ils foncent tout droit vers le titre. Et je pense que leur résultat à Madrid, en plus, les a un peu boostés. Donc, je vois une fin de saison.
Ils n'ont pas gagné pour autant à Madrid.
Ils n'ont pas gagné, mais ils ont fait le boulot. Ils ont nul à l'extérieur avec 3 buts marqués.
Ils en ont pris trois quand même. C'est beaucoup quand même pour une équipe comme City.
Je pense que City est moins fort que l'an dernier. C'est une équipe qui est moins flamboyante, qui propose moins de jeux.
Mais un peu au-dessus des autres,
exactement,
malgré tout.
Mais je pense qu'en PL, ils vont continuer à faire le boulot.
Avec un calendrier plus facile aussi. Hein,
oui, mais moi, je pense pas. Moi, je l'ai dit il y a un certain moment. Je le disais déjà que je pense pas parce que je voyais une équipe de City, en tout cas en voyant leur jeu, qu'ils étaient beaucoup moins bons que l'année dernière. Ça, c'est une certitude et je réitère encore. Et je pense pas encore qu'ils vont aller au bout de la PL. Par exemple, City j'ai regardé même les équipes contre qui ils doivent jouer. Oui, c'est des équipes faibles. On sait bien qu'en première ligue, il n'y a pas d'équipe faible. Et c'est on vrai. Sait bien qu'il y en a même qui jouent le maintien. Mais ils ont plus cœur à jouer le maintien que le titre. Que le titre. Et en sachant que aussi Tottenham pose énormément de problèmes à Manchester City.
Tottenham aussi un peu cramé.
Oui, mais justement, mais même un Tottenham comme ça, même quand ça va pas du tout, il gagne contre City. Je sais pas comment il s'arrange, mais même quand ça va pas du tout, il gagne contre City. Donc maintenant, moi, je suis sûr que City vont faire un faux pas et ça sera à Liverpool de saisir la chance.
Il nous reste quoi,
Arsenal, j'en parle pas parce que Arsenal
reste quoi, 4 journées, c'est ça?
Arsenal, franchement, laisse tomber.
Il nous reste combien de journées là?
Là, je crois que
Il nous reste six journées quand même. Il y a encore la place là.
Il reste 6 journées.
Il y a encore la place. Donc toi, tu penses que Liverpool a une plus grande chance de gagner le titre que Arsenal?
Ah oui, mais Arsenal, ils vont finir 3e, ça c'est une certitude. Ça, je peux mettre tout de suite, je peux miser tout ce que j'ai.
Franchement, moi, je crois pas du tout. Je suis pas d'accord non plus.
Arsenal ne finira jamais devant Liverpool et devant City. Ils finiront pas premier.
Abou, ta réaction par rapport justement aux défaites de Liverpool et d'Arsenal?
Bah moi, c'est des deux faits que je trouve pas surprenants. Moi, je l'ai annoncé depuis le début de la saison, City va finir champion. Je l'ai annoncé quand ils allaient mal, ils vont finir champion. Je l'ai annoncé à la mi-saison, ils vont finir champion. Et je continue à l'annoncer, ce club va finir champion. On parle d'Arsenal. Alors moi, je suis comme Elad, Arsenal, j'y crois pas du tout. Déjà, c'est une équipe qui a l'habitude de flopper. Elle floppe tout le temps, donc elle va encore flopper. Ça changera pas d'habitude.
Comme les Verkusen.
Et Arsenal, comme
les Verkusen, qui floppe tout le temps. J'en parlerai dans ma chronique.
Ouais, mais les Verkusen,
pour moi,
c'est encore différent en Allemagne.
C'est encore pire.
Pour moi, en tout cas, du BVB. Moi, quand tu me parles équipe flopeuse en Allemagne, je pense au BVB. Moi, en tout cas, Arsenal, il leur reste Chelsea.
Quand tu
Tottenham,
dis BVB, tu parles du Dortmund.
Du Borussia Dortmund, pour être clair. Et Arsenal, il leur reste encore Chelsea qui va leur poser des problèmes à coup sûr. Il leur reste encore Tottenham qui va leur poser des problèmes à coup sûr. Et Manchester United. Donc déjà, tu as 3 matchs.
Je vois même Bantmont, excuse-moi, mais je vois même Bantmont. Même Bantmont
leur poser des problèmes. La seule équipe pour moi, en tout cas, qui peut passer devant City, pareil, c'est Liverpool qui a un calendrier peut-être un peu plus entre guillemets facile et à voir ce qu'ils vont faire en Ligue Europa.
Mais moi je pense pas comme vous.
Je pense que les carottes sont cuites.
Moi pour moi Arsenal sera champion.
C'est important de réanimer dans
le jeu. Je sais pas mais je le sens comme ça.
Merci Malik, tu me fais du bien au cœur.
Je pense qu'Arsenal. Non mais c'est l'intuition, on est sûr de rien. Mais après, on essaie de voir un peu ce qui se passe. Je pense que City sera focalisé sur la Ligue des Champions. Liverpool, je pense qu'avec le départ annoncé de Klopp, j'ai l'impression que Liverpool risque de tout perdre en fait à la dernière minute. Ouais, je pense que le grand perdant de cette fin de saison, selon moi, ce sera Liverpool. De toute façon, on en repart. Le rat. Mon cher Lucas.
Juste un dernier mot avant de passer à autre chose. Je pense que là, le club qui a tout à jouer pour, en tout cas, qui va tout déterminer pour le reste de la saison, c'est Tottenham. Puisque c'est eux, en fait, qui jouent City, Liverpool et Arsenal. Ils ont moyen un peu d'être le juge qui va passer la sentence de qui sera champion là, cette année en Premier League.
Dans tous les cas, c'est un championnat qui est très palpitant, très passionnant par ailleurs. Et on va suivre cette Premier League jusqu'au bout, hein, comme un peu au bout du foot. Mon cher Lucas. Ta chronique, t'as un journal pour nous ?
Ouais, j'ai quelques faits d'actualité marquants.
C'est parti.
Alors ce week-end, il y a quand même pas mal de choses qui sont passées. On a commencé à en parler dans le 30 secondes prono, mais il y a quand même le Bayer Leverkusen qui est champion d'Allemagne. Je ne sais pas si on se rend compte depuis la France, vous avez parlé du BVB comme club flopper. Il faut savoir que s'il y a un club qui représente la loose en Allemagne, c'est le Bayer Leverkusen. Fondé en 1904, 120 ans d'existence, jamais champion d'Allemagne. Des deuxièmes places, en veux-tu, en voilà pendant des décennies. Le club toujours dauphin, jamais gagnant. Il y a une saison qui est plus fameuse que les autres, c'est la saison 2001-2002, avec le fameux but de Zidane sur le centre de Roberto Carlos, ce but magnifique en finale Ligue des Champions contre Leverkusen, parce que cette année, Leverkusen, qui avait je ne sais combien de points d'avance, perd le titre à la dernière journée, ils perdent la Coupe d'Allemagne et ils perdent la finale de Ligue des Champions. Comme quoi, une équipe qui fait une grande saison peut aussi repartir bredouille. Ça a été leur habitude, ça fait des années que ça dure et ça n'est plus. Le titre de Leverkusen, il fait plaisir à tout le monde. C'est quand même, comme on disait tout à l'heure, un football chantant avec Xabi Alonso, qui est vraiment l'archétype du coach moderne, qui fait jouer son équipe avec un gros pressing, beaucoup d'occasions, un jeu vraiment alléchant. Et il y a des joueurs qu'on retient particulièrement. Je pense notamment aux deux latéraux dont parlait Elliott, qui ne sont pas tant que des inconnus que ça. Frimpong explose cette saison, mais Grimaldo a fait des énormes saisons à Benfica. Les supporters de Benfica étaient étonnés de voir qu'il n'y ait pas un club d'une plus grosse envergure qui aille le chercher. Et on voit que c'est un club un joueur qui a fait beaucoup de bien à l'effectif, comme Granit Xhaka, en parlant de loser, qui symbolise un peu capitaine d'Arsenal à faire des catastrophes, qui crée des pénalties, qui prend des cartons rouges stupides. Et là, depuis le début de la saison, il est absolument injouable. C'est un peu l'âme de l'équipe, un guerrier qui a fait son retour dans le
club. Joli but hier, d'ailleurs.
Ouais, magnifique but.
Et je vais juste interrompre juste deux secondes. Vas-y, dis-moi. Et pendant la célébration aussi, il y a Frimpong qui a dit, qui était en direct sur Instagram, je pense, en direct avec Saka, et il lui a dit: tu as quitté Arsenal, tu n'as pas fini champion là-bas, et ici, tu finis champion. Tu vois comment c'est incroyable.
Exactement.
Tu vois.
Je vais commencer à le prendre personnellement. Là.
Moussa
Diaby doit avoir le seum aussi.
Moi j'apprécie Arsenal, j'apprécie, mais l'année dernière ils m'ont tellement fait mal au cœur. Je voulais qu'ils finissent champion et l'année dernière ils m'ont tellement fait mal au cœur que ça y est, là j'ai tout coupé avec eux.
Mais chacun, ça fait quelques années là quand même que c'est plus le mec qui se prend les cartons rouges et qui.
Mais il a été repositionné aussi. Ceci explique un peu cela peut-être.
En tout cas, pour moi, il a vraiment mis son jeu en ordre. Ces deux dernières saisons à Arsenal, effectivement, il était assez irréprochable, mais il a fait 4 ans avant qui étaient en dents de scie et assez décevantes. Et là, en fait, on est resté sur un joueur qui s'est trouvé et qui répond parfaitement aux besoins du système de Xabi Alonso. Donc voilà, on a parlé un petit peu tout à l'heure de Florian Wirtz aussi, qui a à peine 20 ans, qui se remet des croisés et qui fait une saison. Là, il a 18 buts, 20 passes D, il va finir en 20-20, c'est assez fou. C'est le métronome de l'équipe. Il a mis un triplé hier pour valider la magnifique victoire du Bayer Leverkusen. Donc voilà, s'il y a un fait pour moi marquant à retenir de ce week-end, c'est tout d'abord le titre de Leverkusen. Et s'il y a un gagnant, s'il y a un loser qui devient un gagnant magnifique, il y a aussi un perdant qui reste un perdant. Et j'aimerais qu'on parle un petit peu d'Harry Kane. Harry Kane qui fait quand même une saison absolument exceptionnelle. Parce que Harry Kane, on peut rigoler.
Monsieur Poisse.
Harry Kane, c'est pas comme si c'était un mauvais joueur. C'est un des top 10 attaquants européens.
Excellent.
Qui met encore 32 buts, qui est
plus
le seul.
Top 10, facile top 5.
C'était pour faire large, mais pour dire voilà. Harry Kane, c'est quand même la grande classe. Voilà, c'est 32 buts en Bundesliga cette année. C'est une adaptation express. Il les a sortis de nombreuses mauvaises situations. Et pourtant, il n'y arrive pas. Il est encore pas champion, contrairement à Xhaka qui quitte Arsenal et qui gagne avec Leverkusen. Voilà. Pour autant, c'est pas entre guillemets Harry Kane le fautif, parce qu'on disait qu'il y avait peu de joueurs qui étaient ressortis cette année à Munich. S'il y en a un à qui on peut rien reprocher, c'est vraiment Harry Kane. Je pense qu'il tombe sur la mauvaise saison. Il y a aussi de la malchance, hein, ça arrive dans une carrière de tomber sur des saisons comme ça, et il faut voir ce que fait aussi Tottenham pendant qu'il n'est pas là. Parce que si on s'inquiète d'Harry Kane, il faut voir que Tottenham, depuis qu'il est parti, ils ont eu un début de saison qui était assez beau, avec Postecoglou, leur nouveau coach, qui avait des vraies idées de jeu. Mais par contre, là, depuis quelques mois, on sent qu'il leur monte le buteur devant.
Ça s'écroule.
Ils ont pris encore 4-0 à Newcastle ce week-end. Ils sont en la lutte avec Aston Villa pour la 4e place. Et là, Aston Villa commence à prendre de l'avance. Et c'est Tottenham qui en paye un peu les frais.
Il va falloir que City soit en phase 2 pour qu'il puisse se réveiller, hein, Dixit, notre ami Elad, il y a quelques instants seulement.
Exactement, Tottenham sera l'arbitre des duels en Première Ligue. Et effectivement, on l'a un peu dit aussi, s'il y a un perdant du week-end plus que Arsenal, c'est Liverpool, qui non seulement a perdu le championnat, mais qui a perdu en Europa League 3-0 contre l'Atalanta Bergame à domicile. Donc là, Anfield a vu 2 défaites en une semaine. C'est pas souvent que ça leur arrive aux supporters des Reds.
Merci Lucas pour ce journal, justement, à 20h58. T'as encore une news?
J'ai encore plein de choses à vous dire.
Une dernière news alors.
Une dernière.
Faut qu'on aille à Barcelone.
D'accord, mais je vais parler des petits championnats, puisqu'il y a des play-offs en Belgique. Je sais pas si vous avez déjà vu les play-offs en Belgique, c'est absolument n'importe quoi. À la fin de la saison, toutes les équipes jouent les play-offs. Pour ne pas descendre, pour jouer la Coupe d'Europe ou pour jouer le titre et en plus l'Europe. Tu peux finir 6e et gagner le titre à la fin. Tu peux finir 8e et finir devant des équipes qui ont fini 4e et aller en Coupe d'Europe. C'est absolument la folie. Donc si vous voulez du suspense... Ah ouais, c'est vraiment...
Moi j'appelle ça la carotte.
C'est vraiment la carotte.
Donc tu joues pas de l'année, quoi. Tu joues pas de l'année, t'attends les playoffs.
C'est un peu comme la NBA, en fait. La saison régulière, en fait, c'est vraiment une mise en bouche.
Non, mais la NBA, encore, ça change un peu.
Mais là, depuis que la Belgique est passée à un système de playoffs, vraiment, c'est vraiment comme ça. Je l'ai aussi parlé, peut-être, la Turquie. On en a parlé pour des mauvaises raisons la semaine dernière, pour les bagarres, etc. Fenerbahçe, qui envoie son équipe, c'est U19, pour jouer contre Galatasaray en finale de coupe. Là, ils ont gagné ce week-end. Et il y a un mano à mano assez fou entre Fenerbahçe et Galatasaray. Fenerbahçe est passé un point devant Galatasaray et le troisième, il a 30 points derrière. 31 et 32 points, je crois exactement. Donc là, voilà, on va voir un mano à mano fascinant en Ligue turque. Et ça vaut le coup parce que c'est toujours des ambiances qui sont très, très chaudes.
Le championnat turc, moi, il me fascine dans le sens où il est très, très curieux. Je dis ça, je dis rien. Merci, mon cher Lucas, pour ce journal.
Et attends, excuse-moi, je voulais juste revenir. Galatasaray qui sont devant Fenerbahçe.
D'un point, c'est ça?
De 2 points.
De 2 points.
De 2 points.
Donc Fenerbahçe.
De 2 points. Ils sont deux
parce qu'ils ont joué là peut-être. Parce
que moi, j'ai regardé, aujourd'hui, en tout cas, je sais qu'ils ont joué et là, ils sont à 32 journées.
Ils sont peut-être en train de gagner maintenant.
Non, ils ont fini le match.
Ils ont fini le match est terminé. Parce que j'ai regardé ce matin, ils étaient encore derrière, donc ils ont gagné. Donc ils ont repris 2 points d'avance. Mais voilà, il y a quand même un mano à mano. Donc ils sont à 34 et 32 points de la concurrence.
Il suffit juste de gagner quoi, pour passer.
Exactement.
Devant. Merci les amis. Tout de suite et maintenant, on va partir avec notre ami Alex du côté de Barcelone. Mon cher Jason, est-ce que Alex est là? Salut Alex.
Je suis là Malik. Salut Malik, salut à tous.
Alors salut Alex, salut. Dans quelques instants avec les amis, on va aborder la Ligue des Champions notamment. Mais juste avant, on a souhaité t'avoir sur place là, depuis Barcelone. C'est quoi l'ambiance?
Alors écoutez, je suis arrivé ce matin et j'ai eu l'occasion d'aller près de l'hôtel des Parisiens. Et il se trouve qu'il y avait quand même une ambiance plutôt pas mal. J'ai pu parler avec certains Espagnols et tout. En plus, moi, je suis avec des amis parisiens. Et ça a chanté ça a commencé à insulter les joueurs du Paris Saint-Germain. Ça a chanté à l'honneur du Barça. En tout cas, je sens que l'ambiance va monter fortement en pression. Et c'est surtout demain, ça va être un jour irrespirable, je pense.
Ah ouais, je crois savoir que Moussa Dembélé, l'ex-sociétaire justement du Barça, a été... Ousmane Dembélé justement a été chahuté entre autres.
Ousmane Dembélé il s'est fait insulter parce que les supporters du Barça ils ont pas oublié sa célébration la semaine dernière lors de la défaite du Paris Saint-Germain 3-2 au Parc des Princes.
C'est son deuxième but de la saison.
Et du coup il a célébré et ça a été très très mal perçu et je sais pas si vous avez vu la presse catalane mais ils l'ont pas mal critiqué aussi.
En disant quoi?
En disant qu'il était ingrat, alors que Xavi, lui, a signalé qu'il le respectait beaucoup, que c'était un joueur important, au moment où il est parti, qu'il n'a pas compris sa décision, que ça l'a déçu, mais qu'il le respecte beaucoup. Il a dit qu'il parlerait avec lui demain pour comprendre mieux sa décision.
Demain? Ah, je sais pas.
Ouais, demain avant le match.
Non, moi, c'est pas ce que j'ai lu après.
Avant le match. Bah écoute.
Oui, bah qu'il a voulu. Moi, en tout cas. Salut Alex. Salut Alex. J'espère que tu vas bien.
Salut Alex.
Ouais, du coup, moi, ce que j'ai entendu, par contre, c'était que il voulait discuter avec lui et même par rapport au match, hein, comment ça s'était passé, etc. Qu'il voulait discuter avec lui, mais qu'il avait pas eu le temps de discuter avec lui et que il espère.
Ouais, voilà, c'est ça. Qu'il avait pas eu le temps au match aller.
Mais pas spécifiquement. Autour de son départ, parce que je pense que son départ, je pense qu'il a eu le temps de discuter avec
lui.
Non,
je pense que c'est pas par rapport à son départ.
Fait partir, il est venu à Paris et ensuite ils l'ont rappelé pour lui dire reviens, et il est revenu quand même en Catalogne pour lui dire de repartir finalement.
Est-ce que tout ça participe pas un peu à la déstabilisation, tout simplement?
Si, c'est possible. Mais en fait, je vais vous dire, honnêtement, parce que j'ai beaucoup regardé l'actualité du coup autour de ce match, et je pense que vous aussi. Et dès que le match s'est terminé la semaine dernière, on a tous eu un peu le sentiment que le Barça était largement supérieur. Il y a eu beaucoup de pessimisme autour du Paris Saint-Germain. Alors que là, depuis 2-3 jours, on sent que ça a un peu inversé la tendance, qu'on s'est rendu compte qu'il n'y avait que 1-0 en cumulé. Donc du coup, voilà, les gens ils sont pas non plus trop excités. Genre il y avait un supporter du Barça tout à l'heure qui m'a dit qu'il attendait ce match et tout, mais que fallait pas sous-estimer, qu'il avait surtout peur de Kylian Mbappé, il m'a dit.
Bah écoute, c'est en même temps c'est Kylian Mbappé, hein. Après il va falloir le museler un peu comme au match aller pour ne pas justement le laisser s'exprimer. Ce sera quoi ton pronostic, mon cher Alex? Là, je parle au consultant. Là.
C'est au consultant.
Ouais.
100% objectif. Moi, je vois une victoire. Peut-être 2-0 de Paris. Hein, je vous mens pas. Je suis toujours pessimiste parce que le Barça a eu trop de buzz, entre guillemets.
Alex, t'as payé le billet justement pour aller. On va tout dire. Hein, t'es
non, mais vous savez très bien où mon cœur penchera. Mais je. J'ai peur de Kylian, moi aussi, je vais pas vous mentir, hein, il peut pas rater deux matchs d'affilée comme ça.
T'imagines Barcelone ne pas marquer sur son terrain, franchement?
Bah oui, en plus, j'ai vu le match de ce week-end, c'était compliqué. Paris n'a pas joué ce week-end, donc ils ont pu se reposer, mettre les choses au clair, etc. Je suis pessimiste, mais après, ça veut pas dire que tout est joué, encore une fois. Hein. Mais voilà, on verra bien demain.
À suivre dans tous les cas. Merci Alex, et puis bon match.
Bon match et peut-être à la semaine prochaine du coup.
À la semaine prochaine.
Alex, on s'appellera même avant la semaine prochaine.
Y a pas de soucis, Eladj. Hey, j'attends ton coup de fil avec impatience.
Y a pas de problème.
De toute façon, on communiquera dans le groupe, hein, en direct, les amis. Hein.
Ouais, bien sûr.
Un groupe WhatsApp animé
bonne soirée
par
à vous.
Stéphane Desenclos et Eladj, notamment. Merci Alex et puis bon match, bon séjour du côté de Barcelone. Mon cher Jason, si on peut avoir notre ami Stéphane Desenclos dans quelques instants, parce qu'on va aborder tout de suite et maintenant les Coupes européennes. Alors, retour, hein, les amis, on l'évoquait avec Alex notamment, retour sur la folle semaine de Ligue des Champions, retour sur le match Paris Saint-Germain-Barcelone. Qui est le principal fautif de cette défaite? Le club parisien doit-il avoir des regrets, les tops et les flops? Quelle est votre projection pour le match de demain, donc le match retour? On va profiter pour saluer la présence de notre ami Chekenza. Et puis, la question t'est posée, mon cher Darius. PSG-Barcelone, qui est le principal fautif?
Franchement, c'est dur de pointer une seule personne du doigt. Je pense qu'en vrai, on a quand même vu un très bon match de la part de Barcelone. Ils ont montré de belles choses. Très bon match, j'exagère peut-être un petit peu. Ils ont montré de belles choses. Je trouvais que Lewandowski a fait un super match sans marquer. Je trouve que Rafinha, même si moi c'est pas un joueur que je considère énormément, là il a été clinique et voilà, ça s'est vu dans le score. Il y a eu un bon coaching pendant le match de la part de Xavi. Il y a eu l'entrée de Pedri qui a forcément fait énormément de bien. Et voilà, donc je pense qu'il n'y a pas forcément un fautif au Paris Saint-Germain, même si voilà, le match de Donnarumma était quand même vraiment pas terrible. Le match de Mbappé non plus, vraiment pas terrible, même si la prise à deux, elle était vraiment vicieuse sur lui. Donc voilà, je pense que c'est dur de pointer quelqu'un du doigt. Le match retour s'annonce passionnant, mais j'ai du mal à voir Paris se qualifier.
Ouais, les amis, on va être bref, hein, justement, parce que ça fait déjà quasiment une semaine que le match s'est joué. On va davantage se projeter sur le match de demain. mais rapidement quand même, j'ai envie d'avoir vos avis par rapport au match aller. Qu'est-ce qui, selon vous, n'a pas marché? On va profiter pour saluer Cheikh Enza. Salut Cheikh.
Oui, salut Malik.
Ça va bien?
Oui, je vais bien.
On va également profiter pour saluer le quotidien du sport.fr avec notre ami Stéphane. Salut Stéphane.
Salut à vous, salut à vous.
Ah mais tiens, Stéphane, j'ai envie d'avoir ton avis tout de suite et maintenant d'ailleurs.
Oui, sur le
sur le Paris Saint-Germain, sur le match aller, on va essayer d'être bref là-dessus pour se projeter davantage sur le match de demain déjà. Qu'est-ce qui, selon toi, n'a pas marché au match aller au niveau du Paris Saint-Germain?
Bah moi, selon moi, ça a été uniquement. Surtout, après, c'est difficile à dire, surtout des défaillances individuelles ou des contre-performances, on va dire, hein, parce qu'on pas individuelles, c'est-à-dire que même s'il a été effectivement très bien marqué par deux, trois défenseurs, Mbappé a été très en dessous, Donnarumma, je pense qu'il est responsable de 2 buts sur 3, Bellardo, il n'a pas rempli son rôle, ce qui ne veut pas du tout dire qu'il est mauvais, mais il n'a pas rempli son rôle. La chance d'Hakimi a empêché, je pense, d'obtenir tout ce qu'on voulait de Dembélé, Kanguili n'a pas apporté grand-chose, bref, ça a été une dire, peut-être, et après, peut-être qu'ils n'ont pas été mis dans les meilleures conditions, ces joueurs-là, pour donner le meilleur d'eux-mêmes, ça c'est tout un débat. Mais sinon, je pense que c'est surtout ça, puis un très beau match quand même aussi de Barcelone, il faut quand même le souligner, hein, le but de Rafinha, la reprise de rôle, le but, la passe de Pedri, le but de Rafinha, c'est un petit chef-d'œuvre, c'est un petit bijou, quoi. Donc t'en prends pas toutes les semaines des buts comme ça. Hein.
Mmh. Là, est-ce que le Paris Saint-Germain pouvait faire mieux?
Ah bah largement, déjà.
Non,
déjà
c'est pour Eladj la question, Stéphane.
Comment?
C'est pour Eladj la question.
Ah pardon.
Bien sûr qu'il pouvait faire mieux. Bien sûr, je vais le dire, Abou, il m'a demandé de me calmer parce qu'il m'a vu que j'étais en train de bouillir. En entendant Stéphane, moi je pensais, Stéphane, vraiment, tu n'arrives pas à prendre de recul quand c'est le PSG, hein, clairement, tu n'arrives pas à prendre de recul. Dans tout ce que tu as cité, tu n'as même pas suscité Luis Enrique qui a fait un coaching de merde, et ça, excusez-moi l'expression, mais il a fait un coaching de merde. Donnarumma a été catastrophique.
Stéphane a dit Donnarumma.
Je pense qu'il a pris 2 buts sur 3, mais... Il a dit je pense qu'il y a deux fautes.
Mais c'est une façon d'engager la responsabilité de Donnarumma.
J'ai pas dit le contraire, mais moi je reviens sur ça. Beraldo par exemple, il a dit quoi? Il a dit quoi? Il vient de dire tout de suite, je ne pense pas qu'il a été mauvais, mais il a été en dessous.
Stéphane, promis, je te redonne la parole.
Non, je te redonne la parole. Je peux pas laisser Elab dire ça.
Mais bien sûr que
si, il a raté son match, mais ce qui ne veut pas dire que c'est un mauvais joueur. Moi, je pense que Beraldo,
personne
n'a
dit que c'était un mauvais joueur.
Raté son match. Donnarumma,
vous dites la même chose.
Enrique, le mauvais coaching d'Enrique, veut donc dire que Enrique n'aurait pas dû mettre Donnarumma dans les buts.
Mais déjà,
j'ai trompé en mettant Donnarumma.
Attends, pourquoi pas?
Attends, laisse-le finir parce qu'il est au téléphone, sinon ça va être inaudible. Oui, Stéphane, on te laisse finir.
C'est ce que tu dis.
Tu peux me laisser finir maintenant, s'il te plaît.
Je te redonne la parole pour lui.
Sur Enrique. Ça veut dire que Enrique a donc eu tort de mettre Donnarumma dans les buts. Voilà, c'est clairement ce que tu dis.
Bon, Eladj, je te laisse répondre.
D'accord. Pour moi, c'était une grosse erreur de mettre Donnarumma titulaire, et ça depuis le premier jour où il est arrivé, et je l'ai toujours dit. C'est enregistré dans les podcasts, je l'ai toujours dit que Donnarumma n'est pas meilleur que Keylor Navas. Et Keylor Navas, on fait un demi-finale et une finale grâce à lui. Je tiens à le préciser, grâce à lui, parce qu'il fait un boulot terrible. Et quand il y a des gros matchs, il porte ses couilles. Excusez-moi du terme, mais il porte ses couilles et Donnarumma se chie dessus. Voilà, et c'est ce qu'il a montré encore une fois. Luis Enrique fait un coaching.
Stéphane, laisse-moi terminer, s'il te plaît.
Luis Enrique fait un coaching de merde en mettant Marquinhos à droite, en faisant jouer Beraldo qui n'a pas joué depuis 2 matchs et qui a pris un carton rouge, en mettant Zaire Emery sur le banc, il a fait de la merde, en mettant Asensio en pointe, il a fait de la merde encore, donc il a fait un coaching de merde, voilà, et ça ne veut pas dire que c'est un mauvais coach, ça veut juste dire que là, sur ce match-là, il s'est trompé, tout simplement, Stéphane, faut dire les choses telles qu'elles sont, ça a été catastrophique.
Ça, c'est ton point de vue, c'est mon point de vue. Moi, je pense qu'avec ce coaching,
arrête Stéphane.
Non, mais les amis, c'est pas une discussion entre vous deux.
Omnibulé par Luis Enrique. Tout ce qu'il fait, tu dis amen. Mais faut arrêter, Stéphane. Faut arrêter 2 secondes.
Eladj, c'est pas une discussion entre vous deux. Hein. Il y a les amis qui sont autour de la table. Ensemble, on va discuter. Ce n'est que du foot. Mon cher Abou.
Oui, bonsoir Malik.
Oui, ton avis justement sur le match aller, qu'est-ce qui n'a pas marché côté Paris Saint-Germain?
On va essayer de tempérer un peu tout ça. Moi, je suis d'accord avec Eladj sans utiliser les mots d'Eladj, mais je pense que déjà, il y a une mauvaise gestion tactique de la part de Lucien Riquet. Il y a un moment donné, quand tu as le milieu de terrain que tu as face au milieu de terrain du FC Barcelone, il faut y aller de manière consciencieuse et réfléchie. Et je pense que Lucien Riquet, c'est le même problème qu'on a depuis le début de la saison et que j'ai déjà relevé ici. C'est un coach, je pense, arrogant, trop sûr de lui, en but de sa personne. Et je pense que quand face au FC Barcelone tu décides de jouer la possession alors que ton milieu de terrain malheureusement pour toi et par tes choix tactiques en sortant Zahir Emery il n'est pas meilleur que le milieu de terrain du FC Barcelone, joue sur tes forces et les forces du Paris Saint-Germain c'est le jeu de transition, c'est le jeu rapide, c'est le jeu vers l'avant, mais lui il a décidé de pas jouer sur ça, il a essayé de gagner cette bataille du milieu de terrain que malheureusement il n'a pas réussi à remporter. Donc je pense que la faute elle est 100%, enfin 100%, elle est 50% pour lui et 50% ça appartient aux joueurs. Et il y a Kylian Mbappé, je suis désolé. Alors la tactique fait que le FC Barcelone a très bien géré ça, ils ont mis deux joueurs sur lui et là, de là, ils ne pouvaient pas combiner avec ses coéquipiers, mais à un moment donné, il n'y a pas que dans le jeu avec Kylian, enfin, il y a aussi dans l'attitude, il y a dans la manière d'être, dans la manière de marcher, il y a la manière de faire.
T'es capitaine Chacun de a beaucoup de bruit, hein, me dit, il faut arrêter de bousculer le micro, merci.
T'es capitaine de l'équipe de France, il y a une interview qui est sortie dimanche dans Téléfoot où t'expliques que les grands joueurs sont présents dans les grands rendez-vous, bah là, il a été tout sauf présent et son match, c'est un non-match tout simplement.
Justement, Chacun a... Non, il faut qu'on fasse le tour, les amis. Il faut qu'on fasse le tour parce qu'il faut que tout le monde prenne la parole. Chacun, justement, est-ce que Mbappé a des excuses après le match de la semaine dernière?
Je pense que bonsoir déjà Malik, bonsoir la team. Excusez-moi un peu. Mais je pense que vraiment les réponses de Mbappé, ça serait sur le terrain demain. Vraiment, tous les supporters parisiens, tout. On espère vraiment que.
Là, on est sur le match aller là.
Oui.
Est-ce que tu penses qu'il a des excuses justement avec sa piètre prestation du
match aller? Oui, bien sûr, parce qu'il a été en dessous comme la majeure partie des joueurs de l'équipe et tout ça. Et vu que vraiment, c'est lui le fer à lance, la véritable star. Donc, on attendait beaucoup vraiment du Mbappé, vu qu'il a pour habitude de répondre face au grand rendez-vous, surtout Barcelone, qui le souriait depuis pas mal de temps. Mais là, vraiment, on a vu Kylian Mbappé aussi, qui n'a pas été vraiment dans la meilleure condition. Tout comme l'équipe aussi, parce qu'à un moment donné, le milieu de terrain aussi a aussi été défaillant. Donc, je pense que ça a aussi un peu joué aussi sur la prestation de Kylian Mbappé, qui n'avait pas vraiment un véritable pouvoir de ballon, qui pouvait aussi par moment l'alimenter. Vu qu'il était déjà muselé sur son côté, je pense que la bonne affaire de Xavi, ça a été ça, de résoudre le problème Mbappé pour réduire un peu l'impact du PSG. Même si on avait un Dembélé, par moment qui arrivait, oui, a fait des belles choses. Mais Mbappé n'était pas vraiment dans le match.
Donc il n'a pas d'excuses.
Oui, je crois qu'il n'a pas d'excuses. Je crois que peut-être une remise en question pour lui-même concernant, mais pas d'excuses.
Lucas?
Moi, ce que j'aimerais dire tout à l'heure, c'est que j'ai pas vu un beau match en fait. Vous parlez tous de beaux matchs, de matchs de haut niveau. J'ai vu un match avec énormément de pertes de balles de part et d'autre, avec beaucoup d'erreurs techniques, avec beaucoup d'erreurs d'inattention, et j'ai pas vu un match vraiment digne d'un quart de finale de Ligue des Champions. En tout cas, surtout pour des équipes qui espèrent jouer le titre en fin de saison. Pour répondre de façon très concise à toutes tes questions, pour moi, le principal responsable, c'est évidemment Luis Enrique. Une composition de départ catastrophique, des changements qui ont apporté. Hein, on a vu Barcola et Zahir Evry, ça a tout de suite été mieux avec eux, mais ils sont rentrés trop tard. Ils auraient dû être titulaires. Je ne comprends pas le totem qui a accordé à Fabien Ruiz, par exemple, qui fait toujours des matchs assez neutres, assez insipides et qui joue tout le temps. En plus, il n'arrête pas de répéter qu'il l'adore, qu'il limite, il veut le garder l'an prochain. C'est vraiment quelque chose qui est incompréhensible pour moi. Asensio, qui est faux neuf, avec... Dembélé qui ne sait pas vraiment y jouer en première mi-temps. Pour moi, la première mi-temps, c'est une pure honte. Voilà. Après, on a joué 5 minutes, on a mis 2 buts. Et après, on s'est endormi. On n'a pas réussi à... Enfin, Paris n'a pas réussi à conclure après le 2-1. Mais voilà, si j'ai des flops, c'est évidemment Mbappé, catastrophique. Beraldo, qui est toujours sorti sous Lewandowski au lieu de rester placé sur sa ligne avec les siens et qui s'est toujours fait manger au duel par Lewandowski, qui a fait des
très... Est-ce que ce n'est pas trop tôt justement pour titulariser Beraldo dans ce type de match?
Moi, je pense que pour le coup, en défense, il avait relativement peu de choix avec les absences de Hakimi et Mukiele. Il a tenté quelque chose. C'est pas ces 4 joueurs qui
mais
sont...
Mais Danilo fait quasiment tous les matchs en championnat.
Danilo aurait pu avoir sa chance, mais moi, je trouve que ce n'est pas fou de ce qu'il a fait. Par contre, c'est la consigne donnée à Beraldo de toujours suivre Lewandowski, de toujours essayer de le chasser. Alors que comme il n'a pas forcément la lecture du jeu ou l'expérience, il s'est toujours fait devancer, il avait toujours un temps de retard. Donc Beraldo, Mbappé, ouais, aussi catastrophique. Par contre, on a
et tu épargnes Donnarumma?
Je n'épargne pas du tout Donnarumma, j'ai pas pensé, mais Donnarumma, comme disait moi, je suis tout à fait d'accord avec Eladj. De toute façon, je pense que quand Leonardo va le chercher, c'est un cadeau empoisonné. Paris, c'est un club qui a du mal à avoir de la continuité sur le poste de gardien. Il avait trouvé Keylor Navas, aller récupérer un gardien qui est plus jeune, qui a été le plus grand espoir européen à ce moment-là. c'est pas forcément mauvais, mais il y a toujours des plus grands espoirs qui arrivent. Et pour moi, les trois dernières saisons qu'on vient de passer, on aurait sûrement mieux fait. Paris aurait sûrement mieux fait avec avec Keylor Navas. Mm-hmm. Donc je garde quand même les bonnes prestations de Marquinhos, que j'ai trouvé assez rassurant pour une fois. Ça faisait longtemps que je l'avais pas vu à ce niveau-là. De Vitinha et des entrants, comme je disais, Barcola et Zaïre Emery. Et je suis quand même assez mitigé sur le match d'Ousmane Dembélé. Il met un but magnifique, il déséquilibre beaucoup, mais c'est 21 ballons perdus.
Deuxième but de la saison, pour un attaquant. Et tout le monde est dithyrambique quand même, malgré tout, sur ses performances. Les amis, on va basculer tout de suite dans le match. On va se projeter pour le match qui arrive déjà demain. C'est le retour. 3-2 concédé donc par le Paris Saint-Germain face au FC Barcelone au match aller. Le match retour a lieu demain. On vient d'avoir notre ami Alex depuis Barcelone. Quelle composition d'équipe pour demain, mon cher Stéphane?
Pour moi, il n'y a qu'une seule hésitation aujourd'hui dans l'équipe qui va débuter demain, c'est Ugarte ou Fabián Ruiz. Je pense que c'est la seule, sinon on devra avoir une attaque Barcola, Dembélé, Mbappé. Pour répondre à ce qui a été dit, Barcola, il restait quand même sur une certaine absence, donc c'était un peu dur de le mettre titulaire au match aller. Maintenant, il a montré, je pense, qu'il était indispensable pour le match retour. Donc, ça sera Mbappé, Dembélé, Barcola. Derrière, Hakimi, Marquinhos, Lucas Hernandez, Mendes. Et puis au milieu, Vitinha, Zaïre Emery. Et le dernier, ça sera ou Fabián Ruiz ou Ugarte. Apparemment, la tendance, selon mes infos, la tendance serait plutôt pour Ugarte.
Mais pourquoi est-ce que Danilo ne revient pas dans le milieu de terrain pour ce type de match Ligue des Champions?
Parce que non, je préfère pas répondre.
Non, mais c'est une question. Moi, je pose la question parce que j'ai l'impression. En championnat, je veux bien. Mais je vais dire, en Ligue des Champions, quand même, il y a une autre forme d'intensité. Et je pense que le Paris Saint-Germain, peut-être, a besoin de ce type de joueur, pas forcément en défense centrale, mais surtout au milieu de terrain. Parce que moi, je sens un Zaïre Emery complètement lessivé. Je le sens fatigué, le garçon. Bien qu'il ait beaucoup de talent, j'ai l'impression qu'il il a trop donné durant ce trois quarts de championnat et de Ligue des Champions, sans compter qu'il est nouvellement international aussi. Il est jeune, il a l'expérience qu'il n'a pas forcément. Il a beau avoir du talent, mais j'ai l'impression que quand les matchs sont suffisamment corsés, il a du mal quand même à se hisser au niveau malgré tout. Est-ce qu'un Danilo, justement, avec son expérience, même s'il est un peu parfois juste, est-ce qu'au milieu de terrain, il ne fera pas beaucoup de bien? On ne peut pas se passer de Danilo et de Ugarte en même temps, selon moi. Les amis, je ne sais pas. Oui, Chakenza?
Oui, concernant ton avis, je pense que oui, Danilo, vraiment, il ferait beaucoup de bien au milieu de terrain. Apporter un peu cette densité face au milieu de terrain barcelonais qui serait un peu vif et tout ça. Pourquoi pas aller gagner des duels et tout ça. Annoncer vraiment que le match, vraiment, dès l'entame de match, il y aura de l'impact et tout, qu'on va les bousculer un peu. Je pense que ça serait une bonne chose.
Et, et surtout, même sur les balles arrêtées, aider Donnarumma qui a du mal à sortir.
Oui, bien sûr aussi. Et pourquoi pas aussi être, je crois, le premier lanceur et tout ça, casser les lignes. Je crois que Danilo, vraiment, serait un profil totalement un peu différent de celui d'Ugarte et pourquoi pas aussi de Fabián Ruiz. Mais concernant Luis Enrique, qui est quelqu'un qui aime vraiment s'entêter dans ses choix et tout ça, je crois que vraiment, il va prioriser le choix d'Ugarte. Et un milieu à trois, Ugarte, Vitinha... Et Zaïre Emery, concernant le gamin, je crois qu'il a les potentialités pour le faire et tout. Parce que là, il est préparé pour ça, il peut enchaîner des matchs et tout. C'est un bon profil, ouais, c'est un profil par moment, voilà, qui peut se projeter, qui peut casser des lignes, voilà, qui peut aussi apporter le surnombre dans la surface. Mais je ne crois pas vraiment que Luis Enrique va bouger les lignes dans ce sens. Il a déjà son 11 titulaire et il va aller sur ça, c'est quelque chose de basique.
Mm-hmm. Lucas, rapidement.
Moi, pas du tout à Danilo parce que déjà, il est quand même beaucoup moins bon cette année que l'année dernière. Et Luis Enrique ne le fait jouer qu'en défense centrale. Il n'est pas forcément plus à l'aise sur ce poste, surtout quand il joue avec Skriniar, c'est catastrophique. Mais je ne vois pas Luis Enrique le faire jouer demain. Par contre, au niveau de la composition, c'est assez rassurant. Je pense qu'il a été assez pragmatique en mettant, par exemple, beaucoup avaient vu en début de saison que le milieu de terrain Ugarte, Vitinha, Zaïre Emery étaient sans doute le plus complémentaire. Il les a très peu fait jouer ensemble. Ugarte, ça fait un moment qu'il est sorti de l'équipe. C'est assez bizarre même de le faire revenir maintenant. Mais bon, c'est Luis Enrique, je ne suis pas forcément étonné. Et le reste, j'ai envie de dire qu'il a été pragmatique. Il met quasiment la meilleure équipe sur le papier.
Beraldo, titulaire demain de Darius, ça t'enchante? Ça te rassure?
Pas du tout. J'espère vraiment pas qu'il jouera demain. Je trouve que son match était terrible. Et j'ai l'impression, et je ne sais pas si c'est juste moi, ou si c'est un avis général, mais à chaque fois que je le vois jouer, je le vois faire des erreurs, mais vraiment décisives. Que ce soit avec le Paris Saint-Germain ou même avec le Brésil, Le nombre de buts que ce mec fait concéder à ses équipes, c'est vraiment terrifiant. Moi, j'aimerais bien voir Danilo en défense centrale. Je trouve que là, c'est l'occasion pour lui de se rattraper. Marquinhos aussi, il a fait un très bon match. Je me dis qu'une petite charnière, ça pourrait marcher. Pourquoi pas? C'est peut-être aussi l'occasion pour Ugarte de revenir dans le milieu de terrain. Et comme Lucas l'a dit, un milieu de terrain Ugarte, Vitinha, Zaïre Emery, c'est peut-être ce qu'il faut pour gagner cette bataille du milieu de terrain, pour jouer la possession, mais peut-être aussi la transition. On sait que c'est des joueurs qui sont extrêmement bons en transition. Je pense surtout à Vitinha et à Zaïre Emery. J'ai du mal à voir Barcola titulaire. J'aimerais bien, mais... pour moi, faire démarrer Mbappé en pointe au milieu, c'est compliqué. C'est pas son meilleur rôle. On sait qu'il est meilleur quand il commence de la gauche. Et du coup, ça veut dire
qu'il a pas fait ça au match aller. Il a
commencé à gauche. Non, je sais bien. Mais donc, je parle pour ce match. Si on veut voir Barcola en pointe, Barcola titulaire, ça voudrait dire que c'est Mbappé en pointe. Et ça, je pense que c'est compliqué. Je pense que c'est mieux s'il commence de la gauche. Mais donc, qui est-ce qu'on met en pointe? C'est
Gonçalo Ramos, pourquoi pas?
Abou, est-ce que tu crois à un sursaut d'orgueil de Mbappé demain?
Forcément, quand tu es un joueur de ce niveau-là.
Mais ça, c'est ce qu'il avait dit aussi. Hein.
Ouais, mais
après, c'est son match pourri en équipe de France et le match, je crois, même face à l'OM, il a fait un match pourri aussi.
Où il a été sorti
et tout ça. Il avait dit qu'un joueur de sa trempe et tout ça.
Ouais, il était obligé de sortir des grands matchs. Et
tu crois vraiment à un sursaut? Parce que moi, j'ai l'impression que le fil est débranché. Hein. Je pense que mentalement, il est à terre, le garçon.
Ouais, mais moi, c'est exactement ce que j'allais dire. Parce qu'à un moment donné, on parle de joueurs de haut niveau et on pense que parce qu'ils gagnent beaucoup d'argent ou parce qu'ils ont le niveau qu'ils ont, ils n'ont pas le droit d'être impactés mentalement. Mais moi, je pense que ce qui se passe avec Luis Enrique, la gestion que Luis Enrique
a,
bien sûr, je pense que ça a un impact sur lui. Quand tu sors face à l'OM, je pense que c'est vraiment là où le fil a été complètement débranché. Autant avant, on pouvait essayer de se réconcilier, autant là, c'est chaud. Mais après, il y a un moment donné aussi où tu t'appelles, enfin, j'estime que tu t'appelles Kylian Mbappé, tu es la plus grande star de l'équipe de France, tu postules pour être ballon d'or, tu postules pour gagner tout ce qui peut être gagné, donc tu n'as pas d'autre choix que d'aller face à ton futur adversaire direct, qui est le FC Barcelone, qu'il retrouve l'année prochaine avec le Real Madrid. Je pense que tu peux juste imposer ta loi. Tu dois imposer ta loi et montrer le joueur que tu es. Et je pense qu'il peut le faire. Mbappé, moi, il m'a toujours surpris en Ligue des Champions. Il y a même des matchs où je ne l'attendais pas, où il a été vraiment juste incroyable. Je pense à cette double confrontation contre le Real Madrid. Et je pense que demain, on aura le droit à un Mbappé de grande classe. Mais ça, c'est possible si Luis Enrique fait les bons choix au milieu de terrain et qui permet à son joueur de ne pas se faire museler. Ouais, et défensivement aussi, et qui permet à son joueur de ne pas se faire museler comme il l'a été au match aller.
Pour moi, c'est plus en attaque, il doit apporter plus de profondeur pour débloquer justement Mbappé.
Et là, je pense que le milieu de terrain aussi doit être revu. Parce que là, quand on a regardé.
La parole pour Elad, s'il vous plaît. Les amis,
ils ont été meilleurs.
Il y a encore beaucoup d'actualités, les amis. Hein. Il y a Atlético, Dortmund, il y a Arsenal, Bayern et tout ça, on va en parler. Ta composition d'équipe pour demain, t'es Luis Enrique, Elad?
Pour moi, dans la défense, déjà, axiale, il doit mettre Lucas Hernandez et Marquinhos. Hein. Pour moi, la question ne se pose pas. Après, à partir du moment où tu as l'un des deux qui ne peut pas être disponible, pour moi, tu mets Danilo Pereira. La question aussi ne se pose pas encore. En tout cas, de loin, Beraldo. Du coup, pour moi, c'est ça. Au milieu de terrain, Ugarte, ça fait un moment qu'il ne fait plus jouer. Moi, depuis le début, je suis partisan pour qu'il fasse jouer Ugarte parce que c'est un joueur qui aurait pu prendre plus d'expérience et qui aurait pu être encore plus bon dans ces genres de matchs. Il aurait pu être présent et tu n'aurais même pas posé la question s'il aurait été au milieu de terrain. Mais puisqu'il ne l'a pas fait jouer, maintenant, si on le met milieu de terrain et qu'il floppe, tout le monde va lui tomber dessus. Moi, je ne sais pas maintenant. Moi, je ne suis pas fan de Fabián Ruiz. Depuis longtemps, je le dis, c'est un joueur où on a beaucoup d'attentes depuis un certain moment. Je le vois jouer, c'est rien de fabuleux. C'est même moche, j'ai envie de dire. Je le mettrais même le match aller. Hein. Pour moi, je l'ai trouvé catastrophique. En tout cas, pas loin de catastrophique. Un peu juste au-dessus des autres, c'est tout. À part une passe décisive, il n'a rien fait dans le match. Et sinon, la défense, si tu mets Ugarte, tu mets Vitinha. Moi, j'aurais plus vu Kanginli quand même milieu de terrain. Vitinha, Kanginli, parce que moi, Kanginli est un joueur qui se projette plus et qui peut avoir devant la surface, qui peut tirer, il nous mettre un but. Et moi, j'attends en tout cas un milieu Vitinha plus offensif. Aussi, hein. Vitinha aussi, oui, mais je mets Vitinha, Kanginli. Même pendant le match, avant que Vitinha marque, j'ai dit Kanginli et Vitinha, tu ne les sors pas parce que l'un des deux marque juste après Vitinha.
Je
ne
suis pas sûr qu'il ait le volume de jeu de Ligue des Champions, Kanginli.
Non, moi,
Vitinha, si tu voudrais, du coup.
Moi, je pense pas qu'il ait le niveau Ligue des Champions.
Franchement, quand il est vraiment. Il est vraiment mauvais quand même à l'aller.
Oui, c'était pas c'était niveau Ligue 1, à la limite.
Non, ça arrive, mais de ce que moi, personnellement, j'ai vu de Kang In Lee depuis le début de saison.
Attends, le PSG n'a pas de joueur au point de titulariser Lee, quand même.
Ah oui, à un moment donné, c'est ça.
Les mecs,
mais tu vas mettre Fabien Ruiz. Après, c'est mon avis. Et en attaque, pour moi, Mbappé. Et pour moi, en attaque, pour moi, tu mets Mbappé à droite, au milieu, il a fermé, il joue. Là, c'est tout simplement après ce qu'il a fait au match aller. Là, il vient tout simplement. Il doit jouer, il doit faire le taf. On te met en attaque, bien sûr. On va pas mettre Barcola sur le banc. Hein. On va mettre Barcola sur le banc pour que Mbappé joue à gauche. Et on va les mettre Asensio ou je ne sais qui en pointe. Mmh. Non, tu titularises Barcola, Dembélé, Mbappé, tu le mets dans l'axe. Pour moi, demain, il fera le travail.
À présent, les amis, on va basculer.
À quel moment Mbappé peut être dézonné en plus.
On va basculer dans le. On va basculer dans le jeu des pronostics. Hein. J'ai pris mon stylo, je vais tout noter demain. Darius, ton pronostic pour demain, rapidement. Barcelone, 2-1, Paris Saint-Germain. Je note, hein, Darius, attention. Hein.
Donc, prolongation,
2-1, hein.
Prolongation et qualification de Barcelone au tir au but.
Lucas.
Alors, moi, je vois un match nul avec des rebondissements. Je pense que Paris va être en position de se qualifier à un moment, qu'ils gagneront 2-0 ou 3-1, mais que Barcelone va revenir au score et qu'il y aura une grosse illusion pour PSG. Voilà.
Donc, défaite du PSG. C'est quoi le score? Dis-moi, parce que là, je dois mourir.
2-2 ou 3-3.
2-2, t'as dit. Attends, dis-moi.
3-3, allez, il y aura beaucoup de buts.
Hey, comme au match aller, quasiment. Check.
Ouais, moi je crois que vraiment Paris a les chances pour se qualifier. Il va falloir que vraiment.
Les amis, là je parle aux consultants, on est d'accord. Hein.
Oui, bien sûr, aux consultants. Là je parle pas. Moi je crois que PSG peut sortir cette équipe de Barcelone 2-0.
2-0.
Mais pourquoi pas avec un doublé de Kylian Mbappé.
Alors moi pour être honnête avec toi, la semaine dernière avec John Ferreira comme prof à l'école et on a parié un maillot dédicacé. Et du coup j'ai déjà donné mon prono. Donc je vais juste reprendre celui-là 2-2.
2-2 pour toi ?
2-2 Barça PSG.
Donc ça fait que Barça passe, hein, on est d'accord.
Ça fait malheureusement une élimination du PSG.
Ton pronom pour demain ?
Moi c'est simple, j'ai fait un rêve. Moi j'ai fait un rêve cette nuit où le PSG se qualifiait. Ah oui, non mais combien ? Je veux dire, pourtant j'y crois pas du tout, hein, mais j'ai fait ce rêve-là et le PSG gagnait 5-2.
5-2 ?
Ouais, moi c'est le score que j'ai fait.
Et en général, quand tu rêves, ça.
après, j'espère. Malik, j'espère que ça sera pas comme toi pour le Mali avec la CAN. Tu m'as dit que t'avais rêvé que le Mali gagnerait la CAN.
Non, mais ça c'était pour te flatter.
Non, arrête, Malik.
C'était pour que tu baisses la garde.
Avec Abou, arrête. Mais pourquoi moi ? C'est pas moi.
C'était pour que tu baisses la garde.
C'est pas moi, je joue, Malik.
Stéphane, ton pronostic pour demain ?
Alors, mon pronostic pour demain, 3-2, je pense, pour Paris. Et en conférence de presse,
3-2 pour Paris, ça fait tir au but.
3-2 pour Paris. En conférence de presse, Pedri a dit, c'est le match le plus important de ma carrière après la demi-finale de l'Euro. La demi-finale de l'Euro, c'était Espagne-Italie et l'Espagne de Pedri a perdu au tir au but contre l'Italie de Donnarumma. Donc je vois le Paris Saint-Germain se qualifier au tir au but.
Oh là là, oh là là. Bon les amis, merci en tout cas pour
ces... Malik, c'est quoi ton pronostic, toi?
Franchement, c'est tellement bizarre. Mais je vois malgré tout le Barcelone se qualifier. Je ne crois pas dans cette équipe de Paris Saint-Germain. Le score, ça va être difficile, mais je vois le Barcelone se qualifier.
Oui, mais c'est un avis.
Ben, je sais pas, je vais dire peut-être 2-1.
Pour Barça.
À leur retour, ils battront le Paris Saint-Germain. Parce que je pense que cette équipe du Paris Saint-Germain, je pense qu'elle est fissurée de l'intérieur. On ne dirait pas comme ça, mais je pense que le cas Mbappé est beaucoup plus préoccupant qu'il n'y paraît. Ça, c'est mon avis. Hein. Et je pense que Mbappé, intérieurement, je pense qu'il est flingué. Mentalement, je pense... Et je le disais depuis le début, et j'y crois, je pense qu'il n'y a même pas que Mbappé. Je pense que Luis Enrique a complètement flingué cette équipe. Ça, c'est mon avis. Le fait de vouloir changer de position à chaque fois, les joueurs, ils n'ont même plus de certitude. Les schémas de jeu, même quand tu dois dégager, parfois, il veut que tu repasses par des passes courtes et tout ça. Je pense que tout ça, ça ne favorise pas les joueurs qu'il a. Il a des joueurs, justement, qui demandent à aller vite, avec des transitions, que tu prennes Barcola, Mbappé ou Ousmane Dembélé, c'est pareil. Il demande à avoir le ballon et à s'exécuter tout de suite dans la vitesse. Sauf que lui, il veut jouer avec ces joueurs-là comme ce qu'il faisait en équipe nationale, notamment avec les jeunes joueurs des Pedri et tout ça. Ce n'est pas ce type de joueurs là qu'il a aujourd'hui au Paris Saint-Germain. Et je pense que c'est peut-être ça qui va couler justement le Paris Saint-Germain. Ça peut être un bon entraîneur par ailleurs, mais il n'a pas les joueurs qu'il veut lui pour mettre en place son système de jeu. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'il s'embrouille un peu parfois dans ses compositions. Ce n'est que mon avis. Après, encore une fois, je vais sortir une phrase bateau. Hein. Ça reste du foot. Tout est possible. dans un jour où Mbappé a envie de tout casser. On l'a vu face à l'Argentine en Coupe du Monde, hein, pourquoi pas. Tout
peut se, demain.
Tout peut se passer. Bon, bah, pourquoi pas. 5 buts à lui tout seul, pourquoi pas.
Non,
et...
pas 5 buts, mais je l'ai vu célébrer sur le 5-2. Du coup, c'est lui, ma
les crème. Amis, on va avancer au pas de course justement parce que cette Ligue des Champions est tellement fantastique, ces quarts de finale. Tiens, on a Atlético Dortmund. Tout le monde ne va pas forcément réagir. Hein. Qui c'est qui souhaite réagir sur Atlético Dortmund? Lucas?
Moi, simplement, c'est un peu ce qu'on avait dit la semaine dernière. On était tous d'accord, quasiment. L'Atlético est une équipe plus complète, mieux préparée tactiquement, mieux organisée. Et je pense qu'ils vont passer Dortmund.
2 buts à 1 à l'aller.
Je vois un match similaire au retour. Ils vont passer sans trembler, mettre 2 buts comme ça. Les buts qu'il faut mettre, ils les mettront. Et après, ça va passer.
J'ai vu Dortmund ce week-end. Je ne sais pas s'ils vont pouvoir tenir la cadence. Ouais,
c'est laborieux.
Parce qu'ils ont gagné, mais ça a été tellement laborieux en fin de match. On avait l'impression, en plus, on avait l'impression qu'ils jouaient un match de coupe. Quoi. C'était vraiment difficile pour les coéquipiers de Sébastien Haller, blessé d'ailleurs, encore une fois. Arsenal, Bayern, Munich, Chekenza. Non, plutôt Darius. Hein, je vais laisser le Gunners parler. Darius.
Moi, je trouvais que c'était un beau match de football. Qu'il y avait,
donc là, on se projette déjà pour demain. Là,
on se projette pour demain.
Demain et après-demain.
Et ben, si on se projette pour demain, je pense que Arsenal a tout à jouer. C'est qui tout double et connaissant voilà Mikel Arteta en vrai je vous savez quoi je crois en la victoire d'Arsenal. Je trouve que c'est un petit Bayern.
C'est un petit
Bayern.
Mais pourquoi tu bégayes?
Parce que j'ai peur mais au fond j'y crois. Voilà, c'est un petit Bayern.
Il y a pas de l'assurance si tu dis
non, il y a pas d'assurance parce que c'est pas quand même c'est pas un petit club non plus. Mais il y a des grands joueurs, il y a des joueurs qui ont envie de prouver qui là une demi-finale de Ligue des Champions pour Arsenal c'est pas rien. Il y a quand même c'est prenable, le Bayern là c'est prenable. Il y a Saka qui je pense qui a envie de remontrer ce qu'il a montré au match aller et encore plus. La défense qui doit se rattraper de son match aller, ils ont quand même fait beaucoup d'erreurs et les deux buts ils partent de là. Là ils ont envie de se rattraper et je pense que là Kane voilà faut qu'il s'endorme et surtout faut qu'il paye pour ce qu'il a fait à Arsenal toutes ces années. Donc moi je crois en la qualification et je vais dire un beau score de 0.
Ah quand même. Real Madrid City Stéphane.
Tu fais exprès. Non. C'est City Real Madrid et
oui, City Real Madrid plus précisément.
Sans problème la qualification City. Maintenant, c'est vrai que le Real a une très belle défense, mais je pense qu'il va y avoir 2 ou 3 buts d'écart pour City.
Combien d'écart? 3 buts d'écart?
2 ou 3. Ouais, 2 minimum, peut-être 3.
Chekenza?
Non, je ne suis pas du même avis que lui. Je crois que le Real peut s'imposer 2-1. Je vois vraiment un match serré. Concernant Ancelotti, il ne va pas faire l'erreur de l'année dernière où vraiment au match retour, il s'est un peu exposé.
City était plus fort ou il a fait une erreur? Moi, je ne vois pas l'erreur qu'il a faite.
Non,
City,
moi, je pense que c'était une
erreur. City était trop fort, c'est tout.
S'il a fait une erreur, son meilleur joueur du match aller, il le sent. Rudiger, lui seul, vraiment, il a encore prouvé. Même si vraiment, il y a un 3-3 au Bernabeu. Et au football aussi, par moments, il y a aussi des trucs qui arrivent. Parce que là, le Real de Madrid n'a jamais gagné à City. Donc, à l'Etihad, chose qu'ils avaient fait il y a quelques années, ils n'avaient jamais gagné. À l'Allianz Arena.
J'aime trop quand tu dis à l'Etihad. On aurait dit que tu vas là-bas souvent.
À l'Allianz Arena, le Real Madrid n'avait jamais gagné. Mais là, je vois vraiment un autre Ancelotti avec une autre équipe et tout ça. Je crois que voilà, il va plus opter pour une solidité défensive pour ne pas vraiment s'exposer. Et pourquoi pas un joueur comme Vinicius ou Rodrigo, voilà. C'est une action de génie. Peut-être un milieu de terrain un peu solide ou un Valverde qui pourra nous sortir vraiment des buts. Mais moi, je suis plus pour le Real de Madrid parce que je pense qu'Ancelotti, c'est un tacticien. Je crois qu'on aura un beau match, mais le Real va se qualifier. 2-1.
Abou, tu souhaites réagir sur quel match? Justement, Atlético, Dortmund, Arsenal, Bayern, City, Real.
City Real, parce que je pense que ça va être l'un des matchs les plus excitants du retour. Ça va être, je pense, aussi l'un des plus beaux matchs de ces quarts de finale, match aller et retour confondus. Et franchement, moi, là où tout le monde voit le Real un peu mort après ce match nul à l'aller, moi je les vois détruire Manchester City au retour. Après, détruire, c'est un bien grand mot. Mais je pense que le Real va faire le taf au match retour. Et les erreurs qu'a commises, notamment tactiquement et dans sa gestion des remplacements, il ne les commettra pas au retour, Carlo Ancelotti. Et ça va très très bien se passer.
Lucas, en deux mots.
Pour la Maison Blanche.
Je tiens à dire que la semaine dernière, à part moi, tous les chroniqueurs voyaient le Real s'imposer contre City et même plutôt largement.
Ah non, pas moi.
C'est vrai, Stéphane, c'est vrai. Mais ceux qui étaient au-delà de la table, en tout cas, et que moi, je pense qu'effectivement, City va se qualifier. Pour moi, City est tout simplement meilleur. Il y a eu 20 minutes de flottement en début de match avec des déboulés de partout. Pour moi, c'est pas la sortie de Rudiger.
Lucas, on est d'accord. Toi et moi, on est d'accord. Moi, je suis pour le Real, mais City est plus fort.
Pour moi,
City est plus complet. Elle a boucle la boucle.
Qualification du Real Madrid, bien évidemment, pour moi, demain, il n'y a pas d'autre option.
C'est l'objectivité ou c'est
non,
le cœur?
Non, franchement, non, on peut dire que c'est les deux. Je supporte le Real, ça, je m'en cache pas.
Non, mais tu regardes pense... beaucoup de matchs, je sais. Tu connais un tout petit peu de foot, quand même, le foot, quand même. Franchement.
Tu veux me faire changer d'avis là?
Non, non, je ne veux pas te faire changer d'avis. Là, on n'a même pas le temps, mais j'ai envie de m'arrêter là-dessus.
C'est pas lui,
là.
C'est Phil Foden qui va le faire changer d'avis.
Tu peux pas me dire aujourd'hui, intrinsèquement, individuellement, collectivement, si tu es au-dessus.
D'accord.
En plus, il joue à la maison.
Malik, il n'y a pas de souci. Tu peux me dire tout ce que tu as envie, ça ne va pas me faire changer d'avis. C'est ce que je pense. Comme quand je pensais que Villarreal allait sortir Bayern, mais qu'ils l'ont sorti.
Bon, on en reparlera.
Tu finiras le cœur brisé. Hein.
Comme je pensais que Lyon allait se maintenir, et là, ils sont
septième. Non, mais on va y revenir. On va y revenir justement avec la Ligue 1.
Je ne vais pas briser le cœur, moi, du tout.
Tu auras le temps.
14 Ligue des Champions, plus de Ligue des Champions que tous les participants aujourd'hui actuels en Ligue des Champions.
Non, mais là, tu parles de l'histoire. Là, on te parle d'un match. On te parle d'un match. Franchement, si demain. Non, c'est mercredi. Si mercredi, il n'y a pas de souci d'arbitrage. Si tu passes au Lemra,
je pense. Non, c'est ça, mais s'il n'y a pas de souci d'arbitrage.
Non, Malik, c'est pas du même avis que toi, Malik, c'est pas du même avis.
On va descendre, les amis. On va aller un cran en dessous, justement, pour retrouver nos amis lillois et marseillais, notamment en Conference League et puis en Europa League. Tiens, on va s'arrêter sur le LOSC, justement, les amis, défait 2-1 par Aston Villa. Moi, je m'attendais franchement à un carton de la part d'Aston Villa. Ça n'a pas été le cas. Ça ouvre quand même quelques espoirs pour les Lillois. Qu'est-ce que vous en dites, Lucas?
Espoir mitigé, je pense que Lille aurait dû faire mieux. Ça peut paraître fou parce qu'effectivement, à Aston Villa, vu la saison qu'ils font en première ligue, ils sont très favoris. Mais Lille a eu un nombre incalculable d'occasions, très très franches. Jonathan David a loupé des grosses occasions. Donc Lille peut se qualifier, mais je pense qu'ils ont laissé passer le train à l'aller et que des fois, il y a des matchs, il faut les rendre fous, il faut marquer, il faut créer de l'irrationalité. Lille n'a pas le sulfaire et là, ils vont. Malheureusement, je n'y crois plus alors que j'étais plutôt pessimiste.
Chakenza.
Ouais, ce qu'il a dit, c'est un peu ça, parce qu'on a tendance à aussi un peu oublier ça, les équipes françaises, c'est un peu ça le souci. En Coupe d'Europe, il faut être réaliste, c'est-à-dire en Coupe d'Europe, quand tu as 3 occasions, tu es susceptible de marquer 2 pour te donner les chances, mais là, ça n'a pas été le cas du LOSC, donc Aston Villa, c'est une équipe vraiment qui va revenir, parce que là, ils ont déjà gagné le match aller, donc ils vont revenir encore avec ce regain de confiance, et cette fois-ci, ils seront encore plus tueurs, c'est-à-dire qu'ils auront encore un peu un match plus organisé et tout, ils mettront tout vraiment pour aller chercher cette
qualification. En plus, ils viennent de battre
Arsenal, là. Voilà, donc voilà, en plus, quand même, une équipe du Guinness vraiment qui est aussi un peu en difficulté. C'est pourquoi tout à l'heure, le propos de Darius, mais... Comme c'est insupportable, il me faisait un peu rigoler parce que cet Arsenal que moi j'ai vu ce week-end-là, je ne crois pas vraiment qu'il puisse vraiment affronter ce Bayern. Même un Bayern en dessous est capable de sortir une masterclass.
C'est leur première défaite de l'année, hein, 2024.
Oui, qu'on le dise ou pas, qu'on le dise
et
ou pas. Mais,
quand on regarde la confrontation avec le Bayern, Arsenal était
Darius,
meilleur.
C'est pas, le problème d'Arsenal,
sur
c'est
les
pas
demi-temps.
Ça.
Et c'est des erreurs individuelles qui ont coûté les
Darius, l'histoire d'Arsenal, c'est qu'il s'écroule en fait vers la fin. Et c'est ce qui reste dans la tête.
C'est vrai, mais moi je pense qu'après des années où il s'écroule à la fin, au bout d'un moment on apprend.
Restons sur le LOSC, les amis. Restons sur le LOSC. Tu as fini ton propos,
ouais,
bon.
Donc, ouais, concernant le LOSC, je crois que vraiment Aston Villa va les sortir. Mais je ne vois pas vraiment le LOSC inverser la tendance. Peut-être à moins qu'un Jonathan David soit d'un grand soir. C'est des choses qui peuvent arriver. Mais je ne le vois pas vraiment. Je vois pas vraiment
ah bon, tu penses que Lille peut se rébeller? Franchement,
moi aussi, je pense que le LOSC.
Arrête.
J'embête Chakenza. Non, mais je pense que.
Faut dire Lille. Est-ce que tu dis le LOSC?
Ouais, c'est ça.
LOSC. LOSC. Bon, Lille.
Lille, ouais.
Ouais, Lille, c'est bien.
Voilà, Lille.
Je oui, à vous.
Moi, non, mais moi, la semaine dernière, je le disais, j'ai espoir en nos clubs français. Je pense que nos clubs français, que ce soit ceux au premier étage avec. Avec le PSG ou ceux au sous-sol avec le LOSC, du coup. Non, Marseille, ils sont entre deux. Ils sont rez-de-chaussée. Je pense que Lille va le faire. Moi, Lucas, il disait oui. Ils n'ont pas mis d'irrationalité au match aller. Ben, moi, je pense que là, ils ont tout pour mettre l'irrationalité. C'est à la maison, c'est chez toi, c'est devant ton public. C'est dans le froid du Nord que tu vas les accueillir. Et si tu ne mets pas d'irrationalité là, tu ne vas jamais le mettre. Et je pense que Paulo Fonseca, il a cette capacité, en tout cas, à transmettre à ses joueurs le fait de mettre l'irrationalité. Dans le match, donc je pense que ça va le faire et je pense que Lille va mettre ce qu'il faut mettre, les ingrédients qu'ils vont mettre. Je vois un match fou, ça va finir à 4-3 avec Jonathan David qui enlève tous ses vêtements.
Il n'y a pas plus pessimiste qu'elle a justement dans cette opposition Lille-Aston Villa.
Ah non, moi je pensais qu'ils allaient leur mettre une valise à l'aller. Mais en fait, j'avais oublié qu'ils préparaient déjà la valise pour l'Emirates Stadium juste après. C'est pour ça, en fait, qu'ils n'ont pas mis valise. Mais là, maintenant, comme après le
c'est pour toi, ça, Darius.
Comme après le week-end.
Une balle perdue.
Non, mais laissez-moi terminer, les gars. On m'interrompt tout le temps. Là, je dis, juste après, ils vont jouer Bounce Mounts. Du coup, moi, je pense que là, ils vont être beaucoup plus sur leurs appuis. Et Unai Emery se voit déjà en demi-finale. Hein. Et il a raison, parce que je pense qu'ils vont sortir le LOSC et ils vont leur mettre une petite valise au match retour, tranquillement. Voilà.
Darius ?
Moi, j'ai été hyper agréablement surpris du LOSC. Je pensais qu'effectivement, ils allaient se prendre un score parce que c'était en plus à Villa Park. Mais ils ont fait un match extrêmement décent. C'est des buts sur corner où ils auraient quand même pu mieux faire. Je pense surtout au premier où vraiment Watkins, c'est gratuit comme but. Et après, McGinn, c'est un peu sur un exploit individuel. Je pense que voilà, ils ont montré de belles choses et je me dis qu'à domicile, en vrai, il y a quand même un coup à jouer. Villa a sous-estimé Lille et il ne faut pas qu'il refasse la même chose parce que sinon voilà, il y a moyen de se faire surprendre et ouais, tout reste à jouer, je pense.
Stéphane Desenclos,
ouais, tout
Lille, pareil, Aston Villa.
Ouais, je dis pareil, hein, j'étais là en revanche, j'étais quasiment peut-être avec Abou le seul à dire que Lille pouvait sortir Aston Villa. Je pense que Lille peut toujours, mais ça va être effectivement très 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 difficile. On va voir si on n'est pas retourné 20 ans en arrière où Lille domine, et puis prend un but et puis perd 1-0. En tout cas, je ne pense pas du tout qu'ils vont se faire submerger par les Anglais. Ils vont jouer un gros match parce qu'ils ont un gros entraîneur, ils ont un gros effectif, ils ont une très belle équipe. Donc, ça va être passionnant. Ce match va être hyper intéressant.
L'Olympique de Marseille à présent, les amis, un match retour arrive dès ce jeudi hein, face au Benfica. 2-1 pour les Portugais au match aller. Le match retour s'annonce ouvert ou pour vous, c'est définitivement plié pour Benfica ? Non, Stéphane, on reste avec toi ?
Bah non, moi, je pense que moi, c'est le contraire. J'ai été agréablement surpris quand même par au moins par le résultat et peut-être le dernier quart d'heure et ce que ça laisse présager. Donc je pense que ça va être fou. Je le donne quand même un avantage à Benfica. Je vois bien un match nul, mais je pense que Marseille peut tout à fait être capable de le faire. Quoi.
Avec Moumbagna, tu crois toi?
Ah non. Non, je pense que lui. Il jouera pas. Alors je pense qu'il va rejouer sitôt, mais je pense que moi je prends plutôt peut-être, même si je suis très loin d'être un fan de Ismaïl Assar, qui pourrait faire son retour. Je sais pas ce qu'il en est. Là, j'ai cru comprendre qu'il était en train de faire des courses. Peut-être qu'il jouera qu'une demi-heure. Et Aubameyang qui est toujours là, qui pour l'instant garde son niveau, qui marche un peu sur l'eau.
Donc ça veut dire qu'aujourd'hui Aubameyang, s'il n'est pas là, c'est Moumbagna, l'attaquant de pointe de l'Olympique de Marseille.
Ouais, non, mais ça c'est pas possible.
Waouh.
Non, ça c'est pas possible. Ça c'est assez. C'est, à mon avis, c'est pas possible, quoi. Je veux dire, c'est.
Ah, si, c'est Longoria qui a fait
fraude,
ça.
Quoi. Vitinha était meilleur, quoi.
C'est Longoria.
Garder au moins les ballons dans les pieds, ça allait faire un peu.
Qui a de l'espoir, justement, pour le match retour Darius, rapidement.
J'ai que de l'espoir en Aubameyang. Franchement.
À lui tout seul ?
Ah ouais, bah.
Parce que c'est un gueuleur, ça annonce un gueuleur.
Non, c'est même pas pour ça. C'est juste parce que déjà, l'Europa League, c'est vraiment sa compétition, pour le coup. Et au-delà de ça, il y a qui à Marseille là, qui peut pointer un peu le bout de son nez ?
Moumbagna.
Vraiment, on souffle. Enfin, j'y crois très peu. Hormis un exploit d'Aubameyang, qui est un peu le seul Marseillais vraiment à montrer de belles choses, je pense que c'est une élimination pour l'OM.
Lucas, toi aussi, t'as fait un rêve ou pas ?
Non, moi, j'ai fait aucun rêve. J'ai regardé le match à l'année. Donc, j'ai vu Marseille se faire littéralement éteindre pendant 75 minutes, ne pas avoir la tête sous l'eau pendant tout le match, contrairement à Lille qui avait eu des occasions, qui a joué. Au final, il y a le même score, en fait.
Marseille, mais il y a un pénalty non sifflé quand même sur Aubameyang.
Il peut siffler, on va dire.
Non, mais en Coupe d'Europe, ça compte.
Moi, j'ai vu Aubameyang, dès qu'il repartait en contre-attaque, moi, j'ai vu Aubameyang et ils ont mis la caméra sur lui à ce moment-là et je pense que lui-même, il ne s'y attendait pas. Moi, j'ai vu, en tout cas, je ne sais pas ceux qui ont vu cette petite scène-là où il regardait comme ça la contre-attaque. Il faisait ça. Il regardait comme ça la contre-attaque. Après, il a fait ça. Oh, où j'ai vu moi cette petite scène là.
Non mais quand on dit faute, ça veut pas dire forcément que t'es blessé.
Non oui, mais en fait quand tu joues le coup, soit tu le joues à fond, soit tu le joues pas entre deux. Et là il l'a un peu joué entre deux, moi c'est ce que j'ai vu.
Lucas.
Non mais effectivement il a pas bien joué le coup. Moi je pense qu'il y a pas penalty de toute façon, mais je pense que Marseille va le faire en fait.
Face à des équipes françaises, ces genres d'actions sont sifflées à chaque fois, oui, les amis. C'est vrai qu'on est souvent battu, mais en même temps je te parle des coupes d'Europe. En général, face aux équipes françaises, ces actions là sont sifflées contre nous à chaque fois, les amis. Hein. Moi je suis désolé, mais regardez bien.
Oui c'est possible, mais pour moi ça fera pas la différence. Je pense que Marseille sera meilleur. Vous dites qu'il y a personne, moi je suis pas d'accord. Je trouve que Veretout, Drogba, c'est très bons joueurs. Je trouve que Mbemba derrière, c'est super. Moi, je pense que Marseille va le faire. Ce n'est pas forcément flamboyant, mais je pense qu'ils vont les battre. Benfica ne m'assure pas confiance du tout.
Et ils jouent à 11 contre 11, hein, pas à 3 contre 11. Ils ne vont pas y arriver à 3 contre 11.
Hein. Il y a une équipe, on ne va pas les faire un par un, mais il y a une équipe. Et pour moi, ils vont les battre.
Non, mais il y aurait une équipe. Y aurait une équipe.
Surtout avec Mbemba.
Il y aurait une équipe. Moi, je crois que vraiment que Marseille aussi a pas mal de chance. Surtout ce gars, c'est vraiment, il arrive à revenir avec son 3-5-2. Voilà, qui était une bonne lancée et tout. Je crois que oui, je crois que Marseille peut le faire. En plus, à la maison, Vélodrome, tout ça. Donc oui, il y a ce 12e homme et tout ça. En plus, c'est un stade mythique. Et je crois que vraiment, là, la saison, hein, je crois qu'elle est quasiment plombée. Donc, ça serait une manière aussi de donner un peu de bonheur aux supporters, tout ça. Voilà, à cette ville qui respire le football. Je crois que Marseille peut le faire. Peut-être, voilà, peut-être un résultat comme un 3-2. Ou pourquoi pas un 2-1 et puis aller aux prolongations. Mais je vois Marseille, en tout cas, ses qualifiés.
Elle a dit.
Donc là, autour de la table, tout le monde voit Marseille se qualifier.
Ah, non. Si, si. Non, non,
non, tout le monde
pas
d'accord.
Moi, j'assume, moi, Marseille.
Mais, moi, je vois Marseille se qualifier.
À moins qu'il y ait Aubameyang qui arrive et qui, à lui tout seul, débloque le match, je pense que c'est une élimination pour lui.
Là, tu as la parole, tu as donné la parole à Darus.
J'ai juste posé une question. Moi, je dis juste que moi, je pense que Marseille vont sortir, hein, clairement. J'ai vu le match Benfica. Normalement, Benfica leur met minimum plus 2. Hein. En 75 minutes, ils ont loupé énormément d'occasions pendant 75 minutes. Ils dominaient leur sujet et Marseille s'est réveillé que les 15 dernières minutes. Maintenant, ils disent oui, on vous attend dans le chaudron, etc. On sait que Marseille au Vélodrome. C'est toujours chaud, c'est toujours un volcan, c'est ce que tu veux, il y a de la lave, c'est ce que tu veux. Mais les joueurs sur le terrain, ça ne bouge pas. Et je pense que Benfica vont s'imposer. En tout cas, Di Maria va encore être flamboyant et je pense qu'ils vont s'imposer.
C'est ton souhait ou bien...
Non, c'est ce que je pense. Non, malheureusement, c'est ce que je pense. Moi, j'aimerais bien voir Marseille un peu plus loin, mais ça paraît très compliqué avec l'effectif.
On finit avec Abou.
Moi, j'ai fait un rêve, Malik. Si elle a déjà arrivé...
Combien ? 5 à 2 pour l'OM aussi ?
Si elle a déjà arrivé... Mais Malik, je te jure, j'ai fait un rêve et je vois l'Olympique de Marseille. Mais, et moi, je ne vais pas peser mes mots. Et c'est vraiment le consultant qui parle et pas le pseudo-supporter. Parce que, encore une fois, arrêtez de m'accoler cette image-là. Mais l'OM va exploser Benfica. Moi, je ne vous dis pas battre. L'OM va
Tu penses au match l'OM face à Villarreal aussi ?
L'OM va exploser Benfica. Ça va très, très bien se passer pour nos amis marseillais.
Tu fais un clin d'œil à Darmanin non, aussi, ça va très très bien se passer.
tu sais, ce match, il me fait penser à quel match ? Il me fait penser au match contre Leipzig en 2018, où il y a ce retour au Vélodrome, où on prend un but directement d'entrée, et là où tu te dis, ah ouais, c'est chaud, on est vraiment en dessous. Puis t'as Payet qui décide de rentrer dans un soir, où, et je pense que notre Payet.
Mais là,
cette
tu
année,
dis, on, tu parles de qui en fait ? Des supporters
non, ou... où on pense.
Ah,
l'inconscient.
L'inconscient, d'accord. L'inconscient. Ouais.
Et je pense que le Payet de 2018, c'est le Aubameyang de 2024. Et je pense que ça va très, très bien se passer. J'ai aucune inquiétude pour nos amis marseillais. Et je suis persuadé qu'ils vont se qualifier. Et je vais même aller plus loin. Moi, je suis sûr que l'OM ira en finale de Ligue Europa. Wow. Et après, bien évidemment, ils se feront tartiner le derrière par Bayer Leverkusen en finale. 3-0, comme en 2018 avec l'Atlético. Mais je vois l'OM aller au bout de cette compétition jusqu'en finale. Et après,
au moins, ça fera rentrer un peu de pépette, un peu d'oseille. Je pense que notre ami Longoria...
On a
besoin. Les amis, à présent, on va basculer dans la Ligue 1. Alors, chacun choisit, les amis, hein, son fait marquant de cette Ligue 1. J'imagine, je présume qu'elle a envie de parler de la remontada lyonnaise. Je lis dans tes pensées ?
Bien sûr, bien évidemment.
Bah, on y va avec toi, alors.
Bah, moi, comme je l'ai dit, hein, Lyon, bon, je pense qu'on sait déjà, mais bon. Moi, je disais que Lyon allait battre Brest hein, la semaine dernière.
Ouais,
la
mais
semaine dernière, non, c'est enregistré
dans les podcasts. Non, mais non, c'est pas ça le problème. Oui. Je sais que moi, ces genres de matchs, avec un arbitrage un peu qui...
Compensation.
Qui à la fin...
Sur le coup franc qui marque, il n'y a pas
moi, tu sais, ce match-là, s'il y a un match nul à la fin, j'ai envie de dire, tant mieux pour les deux équipes.
D'accord, mais Malik,
mais
sur
là,
le coup franc...
Mais là, il y a une équipe qui prend 3 points et l'autre 0 points. C'est ce genre de résultat qui me dégoûte quelque
D'accord,
part.
D'accord, mais Malik, c'est la Ligue 1. On sait très bien, de toute façon, dans tous les cas, comment ça allait se finir. Là, ils ont quand même pris les 3 points. Ils ont quand même gagné, malgré tout l'effet de jeu que tu peux dire. Parce que, OK, il y a un pénalty qui n'est pas sifflé. Ils sifflent un coup franc dans les 20 mètres où il n'y a pas faute de main à ce moment-là, puisque c'est un coude et qui est collé au corps. Et ils marquent dessus. Du coup, moi, je pense que la compensation a été largement faite. À ce niveau-là, moi je pense que juste que Lyon ils vont continuer à ben, en tout cas c'était un match vraiment incroyable hein, voilà, c'était vraiment un match incroyable, en tout cas c'est le cas de le dire, faut le dire en tout cas. Et il y avait une petite truc que je voulais dire, seuls 4 clubs ont remporté au moins 15 matchs sur les 20 derniers du top 5 européen: Manchester City, Bayer Leverkusen, Inter Milan et l'Olympique Lyonnais. quand même. Ils font partie de ces 4. Non, mais quand même, hein, sur ces 20 derniers matchs, ils ont gagné 15 matchs. Ils font partie de ce top 4 de tout championnat confondu européen. Non, mais c'est vraiment ouf. Du coup, voilà, on a assisté à un très beau match. Et je pense que Lyon vont finir.
Deschamps, appelle la casette.
Ouais, aussi.
À bout.
Moi, c'est pour Strasbourg. Je m'en rappelle d'une de nos émissions. Je suis beaucoup dans les
dans les souvenirs.
Dans la nostalgie aujourd'hui. Je me rappelle d'une émission où j'avais descendu en flèche Patrick Vieira, où je remettais en cause l'entraîneur qu'il était, et j'estimais même qu'il n'avait pas à continuer en tant que coach. Et là, je vois une équipe, une très belle équipe, enfin une très belle équipe de Strasbourg, peut-être pas jusque-là, mais en tout cas, ça fait 6 matchs que Strasbourg n'a pas perdu de match, et c'est une équipe qui va sûrement se maintenir cette saison. Et voilà,
ils sont à quoi, 36 points ?
Ils sont à 36 points, exactement, alors que le premier...
Je pense que c'est bon.
Ouais, c'est presque bon. Après, on ne sait jamais dans le football, mais quand tu vois le calendrier qu'a Nantes pour finir, qui va aller à Brest, Monaco, Lille, ça va être très très chaud pour les Nantais, même si Comboiré, pareil, il est venu insuffler un peu de vie là-bas. Mais voilà, très content pour les Strasbourgeois, avec, encore une fois, un président que moi, j'aime beaucoup à Strasbourg, qui, je trouve, fait un très beau travail. J'étais étonné qu'ils prennent Patrick Vieira à Strasbourg. Je trouvais qu'il y avait de meilleurs choix.
Mais bah, Strasbourg appartient à qui temps, c'est qui le propriétaire de Strasbourg?
C'est le propriétaire de Strasbourg, c'est le propriétaire de Chelsea.
Exactement. Et Patrick Vieira.
C'est un Anglais.
Première Ligue, blablabla. Bla bla.
Mais en tout cas, très content pour les Strasbourgeois, avec un président qui fait un très beau, travail. Qui
non, je crois que c'est City, hein, plutôt. Hein. C'est plutôt City, je crois.
City, Strasbourg, c'est pas...
Ouais, je crois.
C'est de mémoire.
Non, c'est Strasbourg, ça appartient.
C'est Chelsea.
Oui, c'est Chelsea.
Autant pour moi.
3, c'est City.
Ok, d'accord.
3, c'est City. Mais voilà, en tout cas, très content pour nos amis strasbourgeois, et belle fin de saison.
Ouais, c'est vrai que ça engrange des points, mais j'ai l'impression que c'est plus les adversaires qui leur donnent des points. Parce que dans le contenu, moi, je ne vois pas
ils
ça.
Sont pas, ils sont pas ouf.
C'est
pas
ouf. Il y a toujours quelque
ouf.
Chose.
Chaganza.
Mon fait vraiment marquant, c'est Lens. Parce que Lens, vraiment, face à Metz et tout ça, qui perd. Pourtant, là, ils sont à quelques places des potes européennes et tout ça. Ils sont sixième. Ouais. Je crois que Franck S, depuis un certain moment, bah, c'est un peu, je sais pas.
Je pense qu'il est fatigué mentalement.
Ouais, à un moment donné, mais ça arrive plus. Je crois que c'est un peu du bricole et tout. Ça réfléchit un peu au niveau des idées, des composes d'équipe, du schéma de jeu. Il y a tellement d'ambiguïté. On sent que vraiment le il est en fin de cycle, qu'il va falloir aussi.
Il pense déjà à Liverpool, en fait.
Voilà, ah bon, tu penses?
En tout cas, c'est ce que j'ai cru entendre, du coup.
Voilà, dans les coulisses, ça en parle, mais là, vraiment, ce que je vois, je suis pas sûr que Liverpool.
Non, mais moi, justement, après le pénalty marqué, moi, je les ai trouvés suffisants après. Hein. Ouais. Ça, ils jouaient en se regardant. J'ai bien aimé la réaction des médecins, finalement, hein, qui ont réussi non seulement à égaliser, et après à passer au-dessus de cette équipe.
À un moment donné, il n'y avait pas vraiment des prises d'initiative et tout ça. Eli Wayou aussi, qui est un peu en dessous.
Non,
vraiment.
Mais il n'a pas joué.
Oui, bien sûr, mais même s'il n'a pas joué, mais calmement, c'est le buteur.
T'as regardé le match?
Oui, j'ai regardé, mais c'est le buteur de l'équipe.
Tu parles d'Eli Wayou qui n'était pas sur le...
Oui, mais je parle de c'est le buteur de l'équipe, en fait.
Eli Wayou, il est rentré à la mi-temps, non?
À la fin du match,
mais c'est le buteur véritable de l'équipe, parce qu'il a été payé pour. Quand il y a Seko Fofana qui part, quand on paye un joueur vraiment comme Eli Wayou,
ça n'a rien à voir.
Non, ça n'a
rien à voir.
Laisse-moi terminer. Ça n'a rien à voir. C'est Seko Fofana, c'est le terrain. Mais quand on paye Eli Wayou, déjà, on s'est dit qu'en termes de rentabilité et tout, c'est un joueur au minimum qui peut mettre au moins 10 à 15 buts par saison. Mais là, vraiment, à un moment donné, il n'arrive pas.
Non, mais tu peux pas m'interrompre
dans mon développement et demander.
Il n'est pas prêt.
Mais
Eli Wayou, c'est pas bon du tout.
Ça joue un peu sur le collectif, et c'est pourquoi, quand il rentre, il n'y a pas grand chose qu'il apporte. Et donc, je suis un peu dessus.
Il a des buts spectaculaires qui font oublier souvent ses piètres prestations, mais autrement, il n'est pas bon.
Ils vont recruter Oumar Diakité.
Non, je crois pas.
Il est souvent hors jeu et tout ça, mais c'est grave. Lucas,
moi, juste pour finir là-dessus, je pense.
Quel match a retenu ton attention en Ligue 1?
Moi, je vais juste finir là-dessus. Pour Lens, juste.
C'est Lens qui a retenu ton attention?
Non, c'est Rennes. Mais
Metz-Lens.
Je tiens à dire que d'abord, pour Lens, je pense que c'est la perte de Seko Fofana qui a beaucoup joué. Il n'a pas été remplacé du tout. Andy Diouf, c'est pas le même niveau. Donc pour moi, c'est plus là que sur Franck Heisseux que ça se joue. Moi, le match que j'ai retenu cette semaine, c'est la défaite de Rennes à domicile contre Toulouse.
Énième
démonstration de médiocrité de la part du Stade Rennais. Encore un recrutement qui est estimé ambitieux, avec Matic qui part 6 mois plus tard, avec Enzo Lefebvre qui ne joue pas ou qui joue mal, et avec Ludovic Blas qui n'est pas au niveau. Donc je suis assez effaré par la constante médiocrité rennaise. Ils n'arrivent pas à passer le cap d'équipes qui jouent vraiment le haut de tableau. Et autant les équipes qui arrivent à être surprises, au moins sur une saison, comme Lens l'an dernier, et ben même ça, Rennes, ils n'y arrivent pas. Je trouve que c'est assez triste au vu du potentiel du club.
Darius, Arsenal n'est pas en Ligue 1.
Mais, alors... mais là je voulais parler de Lens, après je voulais parler de Rennes. Bon, plus chose de quoi parler. Mais je pense que je vais quand même.
Mais c'est vrai qu'il
n'y
a pas eu beaucoup de matchs aussi.
Non, il n'y a pas eu beaucoup de matchs. Ouais, il y a plein d'équipes qui ont
avec
pas
les Lille, Marseille et Paris
Saint-Germain. Je pense que je vais quand même parler de Lens, mais pas d'un point de vue footballistique, mais du supporter. Je ne sais pas si vous avez vu en tribune qui a célébré du coup le but de Lens et qui s'est fait du coup lyncher par les supporters messins. Ouais, si, du coup, il a supporté son but dans une tribune, qui n'est pas la tribune, du coup, visiteur, ouais. Mais qui, du coup, après cette célébration, s'est fait lyncher par une dizaine de supporters messins. Triste image, et un peu la seule chose que j'ai à dire, du coup,
image et acte à bannir, justement. Stéphane Desenclos, quel match a retenu ton attention ?
Je vais faire plusieurs commentaires par rapport à ce que vous avez dit. Déjà, Lyon-Brest, effectivement, énorme match. Sans parler des erreurs arbitrales, parce que bon, il y en a de toute façon, sauf que bon, j'ai quand même trouvé Brest meilleur sur le match, en tout cas meilleur dans le jeu, meilleure équipe que Lyon, mais en tout cas énorme match. Maintenant, effectivement, le match qui a attiré mon attention, c'est Lens, tout simplement pour une chose, et je vais vous donner deux noms. Tout à l'heure, là, Malik, tu disais que j'ai pas entendu, parce qu'il y a eu une coupure et Liwayi n'a pas joué. Il a joué, je sais pas, il est rentré à la dernière demi-heure ou à la mi-temps, je sais pas, mais il a joué à la deuxième mi-temps.
Il a joué 20 minutes, je crois.
La différence, c'est moi, mec, qui m'a épaté, c'est Miko Tadze, quoi. Je veux dire, le mec, c'est un buteur incroyable. Il marque deux buts exceptionnels. Il permet, grâce à son talent, quasiment à Lens d'espérer encore pouvoir se sauver. Et en face, hein, Eliwayi qui a été acheté 30 millions, je crois, et qui rate complètement sa saison. Maintenant, il sera peut-être meilleur la saison prochaine. Donc, effectivement, moi, je pense que Lens a été une équipe surcoté, qui est une équipe qui est surcotée à partir du moment où ils ont perdu leurs deux meilleurs joueurs, hein, Openda et Seko Fofana. Et je crois que c'est Lucas qui a dit que c'est surtout Seko Fofana qui manque, mais je ne suis pas du tout d'accord avec lui. J'aurais tendance à dire que je ne sais pas s'il regarde assez souvent les matchs de Lens, parce que moi…
Eliwayi rentre à la 60e précisément.
Je les regarde toujours les matchs de Lens et… clairement, cette saison, que ce soit même Fribourg en Ligue Europa et tout, ils ont pêché en attaque, Lens. Ils ont pêché en attaque. Ils n'ont pas d'attaquant. Lens n'a pas d'attaquant. Carrément, c'est une saison sans attaquant digne de ce nom. Donc, même si ce n'est pas Openda qui continue à marquer en Allemagne, ils n'ont pas d'attaquant, quoi. Donc, je veux dire, ce n'est pas possible de faire une saison dans le top 5 sans avoir… sur l'attaquant, et c'est ce qui arrive aussi à Rennes malgré tout, qui a été souvent handicapé par l'absence de Terrier, qui a quand même un peu de mal à revenir au top niveau, et c'est ce qui leur coûte, et c'est pour ça notamment aussi que on voit une équipe comme Lyon par exemple qui remonte bien parce que elle est un peu quand même tirée vers le haut par la Casette, avec les buts de la Casette. Et je pense que tu mets Miko Tadze à Lens cette saison. Je pense que Lens joue dans les quatre premiers, quoi. Parce qu'ils n'ont pas de buteur. Et lui, c'est un buteur exceptionnel. Tout le monde est en train de se battre parce qu'apparemment, il ne retournera pas à l'Ajax. Il est prêté par il a été vendu à l'Ajax. Il a été prêté par l'Ajax au mois de janvier à Metz. Donc, il doit y retourner. L'Ajax, apparemment, s'en fiche un peu comme de son dernier caleçon. Donc, il y a déjà Lyon et l'OM, par exemple. Il y a Lyon sûr qui est à l'affût.
Merci Stéphane. D'ailleurs, Stéphane… Je suggère que le quotidien du sport fasse un papier pour la Casette. Hein. Je milite pour qu'il soit en équipe de France, à défaut au moins au JO.
Ah, oui, voilà, qu'il aille au JO, c'est très bien.
merci Stéphane Desenclos du quotidien du sport.fr. Allez-y justement regarder toutes les informations de sport en général sur ce quotidien via Internet. Merci Chakenza, merci Abou, merci Elaj. Lucas, merci beaucoup. Darius, merci. Et puis, on va saluer l'ami Jason Lindor et puis à vous dire à lundi prochain. Salut.